Nous sommes mercredi 7 novembre 2018, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Galaxies.
Bonsoir.
Qui sera votre DJ ce soir. Bonsoir Mecto.
Bonsoir.
Et voilà, nous nous retrouvons pour une émission exceptionnelle.
À l'heure.
À l'heure.
Cette fois. Qui,
comme toutes les semaines. Dans laquelle nous allons parler de speedrun, nous allons parler du monde merveilleux du business jeu vidéo. Nous allons parler de Dark Souls. Hein, qui est la version de Dark Souls qu'on peut jouer bourré. Nous allons parler de Super Mario Party, mais nous allons commencer tout de suite par parler du Smash Direct qui a eu lieu. Alors, on va... voilà, il y a eu 30 minutes de beaucoup de choses, enfin de beaucoup
40,
de...
40.
40, putain. Ouais. Moi, je l'ai pas regardé, hein, parce qu'honnêtement, je suis arrivé à un point où c'est bon, me présenter trois personnages et un mode de jeu, je préfère lire le résumé.
T'es pas un vrai fan.
En vrai, les trucs les plus intéressants étaient, enfin, au début et à la fin, vu que c'était les nouveaux persos, le mode aventure.
Mais il n'y a pas eu que ça quand même, si.
Enfin, si, il y a eu plein d'autres trucs, mais.
Ouais, genre, on a vu
une grosse déception.
L'animation de l'orteil droit de Mars, c'était vraiment beaucoup mieux fait et vraiment pour le savoir.
Ouais, ils ont parlé des DLC. Bref,
pour commencer dans l'ordre, ça a ouvert sur l'annonce de deux nouveaux personnages. Donc Ken de Street Fighter 2 et de Marvel vs Capcom 3. Ah non, il n'y est pas. Enfin, d'autres jeux Street Fighter, entre autres, qui sera un combattant écho de son pote Ryu. Et d'un nouveau Pokémon au design toujours aussi naze avec Fel Inferno.
Oui, alors je sais pas, c'est la version catcher mexicain.
Voilà, c'est le catcher de Pokémon, mais qui est de type feu et qui ressemble à un gros chat.
En gros, ce sera le Zangief de Smash Bros.
Ah putain, ils auraient pu mettre Zangief, ça aurait été stylé.
Mais ils ont mis Guile en trophée assist.
Sérieux ?
Voilà.
C'est stylé ça aussi.
Avec son thème.
Qui va avec tout, donc c'est très bien.
Donc voilà.
Mais il va du coup avec Smash Bros aussi. Pour moi, la plus grosse annonce, il y a eu la plante piranha aussi, dans les persos un peu what the fuck, d'où ça sort.
Bah, moi je trouve ça super drôle parce que d'habitude c'est toujours des persos super importants, et là on a un truc un peu, j'allais pas dire décor, mais ça reste un ennemi emblématique de Mario et un personnage un
mais
petit peu délire.
Mais qui est sur le côté. Justement, je trouve que contrairement à d'autres ennemis emblématiques, on n'y pense pas forcément en premier. Autant on pense beaucoup au Koopa par exemple, autant vu qu'on pense que c'est vraiment un élément de décor, et ben moi elle me vient pas souvent en tête en premier, et j'aurais jamais imaginé la plante piranha en perso, et je suis super content. Enfin, il me fallait un perso un peu fun comme ça pour finir, et je regardais ça le live justement avec un copain, on attendait tous les deux un perso un peu dans ce genre, et on était super contents.
Surtout que ce Smash Bros là, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de nouveaux persos. Enfin, il n'y a pas eu énormément de nouveaux persos, je crois qu'on est à 4 ou 5. Mais c'est, à part Simon Belmont, c'est quand même beaucoup de personnages qui étaient très voulus par les fans. Et du coup, là, avoir un truc un peu sorti de nulle part, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de bien.
Bah, c'est vrai que ça rejoint un petit peu le côté what the fuck du duo Duck Hunt, qui nous a tous surpris. On se dit, putain, mais les mecs ont transformé un canard et un chien qui étaient dans Duck Hunt, sur lequel tu tirais, enfin, tu vois, le truc un peu débile, en personnage de Smash Bros, et ça marchait très bien. Il était très rigolo à jouer. Bon, c'est peut-être pas le personnage top tier que tout le monde joue en tournoi, mais c'est rigolo, ça marche, et au final, Smash Bros, c'est un petit peu nawak, donc c'est pas trop grave, quoi.
Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le personnage gag de l'épisode Wii U. Genre comme l'était Rondoudou dans le tout premier, ou plutôt Pichu, Monsieur Game & Watch dans Melee, quoi.
Rondoudou c'était censé être un perso un peu gag parce que il était balèze quand même.
Bah, je l'ai jamais vu comme un perso très sérieux, mais oui, non, il y avait des persos. Enfin, le perso gag, c'est pas forcément que le perso est faible, c'est avant tout que t'as l'impression qu'il est pas du tout là pour la baston et que c'est un personnage un petit peu délirant dans l'esprit, quoi.
Ah, ouais, d'accord,
vraiment improbable.
Oui, le c'est plus, voilà, c'est ça, c'est le perso improbable, genre effectivement dans les Marvel vs Capcom quand t'avais je sais pas quel personnage à la con.
Bah, Phoenix Wright dans le 3.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement
sérieux.
Bah, évidemment.
Putain.
En même temps, c'est ça qui est fun. Il y a un autre truc aussi, c'est le mode esprit. Alors, je suis désolé, j'ai pas bien suivi. J'ai cru comprendre que c'était un mode histoire. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu, c'est.
Non, mais.
C'est la fin du monde et Kirby est le seul survivant.
Voilà. En même temps, c'est le meilleur perso de tous les temps, forcément. Voilà. Enfin.
C'est Kirby survivant de l'enfer, Kirby sous grand croise de l'enfer, Kirby dans le chaos des esprits.
Non, mais. Kirby survivant.
Déjà, dans l'émissaire spatial, c'est Kirby qui sauvait toute la licence Super Smash Bros.
Mais attends, je
crois Kirby, que mec. Sakurai va nous faire passer un petit message.
Écoute, gars,
il aime sa création.
C'est une boule de gomme rose qui est ultra badass, c'est tout ce que t'as à savoir.
Non, attends, et le plus drôle, c'est que l'allure du monde, il me semble que c'est ça, oui, le titre en français, de ce mode aventure, entre grosses guillemets, en japonais. Si tu lis à l'envers, ça fait le nom originel de la saga Kirby.
Ça fait Oshi no Kirby. Okabi.
Voilà.
Putain de
sa
mère.
C'est à ce point la méta.
C'est le lore. Le gars, c'est le lore de Kirby, quoi. En fait, Kirby est né du chaos originel, et derrière, il a avalé des trucs, et ça a fait des machins.
Oui, mais ils se sont plus foulés pour le nom que pour le mode. Parce que je suis désolé, mais à un moment donné, quand le mode, il consiste à... Tu vois les trois petits chats qu'il y avait que t'as bien aimé, là, dans Animal Crossing. Bah, on va te peindre Sonic en trois couleurs différentes. Et puis tu vas plisser un peu les yeux et
déjà,
tu vas t'imaginer.
C'est pas des chats, c'est des hérissons parce que c'est les sœurs Layette et Cousette.
Non, donc, voilà.
Déjà au niveau du lore, c'est logique que ce soit Sonic. Donc déjà, voilà, franchement, je trouve que.
C'est pas logique. C'est...
Non, le journalisme total t'aurait fait jouer à Animal Crossing.
Je suis désolé. Les mecs, ils t'arnaquent. Genre, et toi, tu fais oh oui, s'il te plaît, Sakurai, vas-y. Il t'envoie ta tante Micheline.
Il peut me faire l'amour s'il veut.
Il t'envoie ta tante Micheline déguisée en Waluigi et tu fais oui, vas-y, c'est Waluigi.
Il a raison, ils se ressemblent. Non, en vrai, je trouve que c'est une
bonne
idée.
C'est totalement ça. Attendez, la même moustache que Waluigi.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est le mode esprit
Eh bien, c'est un mode dans lequel Kirby est le seul rescapé du monde libre. C'est lui qui va sauver la planète et ta gueule.
Voilà. Mec Nintendo, Great Again, avec Donald Kirby Trump. Moi, ce que j'ai surtout compris. Alors, le mode esprit, moi, j'ai un truc que je trouve pas extrêmement clair à l'heure actuelle. C'est que Sakurai, il passe pas mal de temps à en parler, que notamment les esprits, c'était un peu le remplacement des trophées, parce que c'est ce qui va permettre un peu de montrer tout l'étendue des univers Nintendo et même pas mal d'univers éditeurs tiers, parce qu'on va avoir genre des persos comme Chantilly qui vont être présents dans les esprits. Et le truc, c'est que c'est ces espèces d'autocollants qui vont permettre d'augmenter tes persos, un peu comme dans Brawl. Et en fait, là où j'ai pas trop piégé, c'est est-ce que le mode esprit, c'est que le mode aventure? Ou est-ce que le mode aventure est un mode annexe du mode esprit? Parce qu'il nous montre qu'il y a des espèces d'event match pour obtenir des esprits, mais que tu en as aussi dans le mode aventure, et même sur la page du site officiel, c'est le mode aventure, c'est pas une page en elle-même, c'est genre une section de
mais
la page esprit.
Mais t'as pas de mode aventure.
En
vrai, c'est pas un émissaire subspatial, c'est-à-dire que t'as une mécanique d'esprit qui va te permettre de buff tes combattants. Mais ça dans n'importe quel mode, c'est-à-dire tu peux jouer avec ou pas, c'est juste une règle particulière. Et tant que t'as des petits stickers à l'effigie de je sais pas quel mec de quelle saga, de n'importe quelle saga, qui buff ton perso en fonction de ce qu'est le personnage en fait dans son jeu.
C'est un truc un peu cohérent, c'est censé remplacer les trophées. Mais c'est quoi le rapport avec Kirby, maître du monde?
Parce que t'as un mode aventure qui est une sorte de grosse intro à tout ce mode esprit, qui est censé en fait t'introduire peu à peu les mécaniques et te donner en fait
et t'aider à débloquer les personnages.
Et t'aider à débloquer les personnages, mais aussi les esprits. Parce que quand tu combats donc un Fury d'un personnage d'une certaine licence, tu débloques son esprit. Voilà, sauf que du coup t'as pas de mode, c'est pas un émissaire spatial où t'as des niveaux un peu de plateforme ou autre. C'est vraiment juste des combats avec des vieux déguisements dégueu.
Tu vas avoir les cinématiques.
Mais c'est de l'arnaque. Mais non, il y a pas de cinématique d'après.
Putain, qu'est-ce que
t'en sais? Mais
parce que t'as une vieille carte dégueulasse.
Ils ont des cinématiques.
La carte de l'émissaire spatial, c'était de la merde aussi.
Non, mais d'accord. Mais sauf que là, c'est pas, si tu veux, c'est pas une carte. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais, tu veux. Est-ce que vous voyez la carte de Mario Tennis? Oui. Tu la prends, tu fais symétrie horizontale, symétrie verticale, et voilà. Et t'as des trucs partout. et t'as des trucs qui se débloquent qu'avec certains personnages, parce que comme t'as Jean-Michel qui a le vol, et ben tu peux faire le vol.
Est-ce que c'est qu'une symétrie, Galaxis? Parce que là, je trouve que tu es très présomptueux.
Non, tu copies,
mais quand même.
Tu copies un peu partout. Oui. Oui.
Non mais je suis désolé, si les cinématiques qu'on nous a montrées jusqu'à présent où il y a Mario qui se faisait tuer par Ridley et Luigi qui se faisait fumer le cul par je sais
mais
pas
je
quoi.
Mais je ne demande que ça moi.
Mais je suis ça certain qu'elles seront dans le jeu. Je suis certain qu'elles seront dans le jeu.
Elles seront dans le menu cinématique pour les cinématiques d'intro des personnages.
Ouais c'est ça, c'est le bonus. Non mais... par contre, ce qui est je trouve assez assez honnête de sa part, c'est qu'il a fait on avait juste pas le temps de faire des trophées, donc on vous a mis des PNG de perso.
Ben voilà, c'est bien ça déjà.
Oui, c'est honnête, mais...
Après, moi je suis pas d'accord de dire que c'est pas un mode aventure, parce qu'il y a que de la baston. Je rappelle quand même que c'est un jeu de baston, en fait, Smash Bros. Donc c'est pas déconnant en soi d'avoir que de la baston en mode aventure.
Puis surtout, les trucs de plateforme dans Smash Melee, le hit de target et le machin de plateforme, tout ça, c'était quand même... Enfin, c'était pas les meilleurs passages du jeu, quoi.
J'aimais bien. Vraiment, les hit the target, moi, ça m'a fait...
Hit the target, c'est un peu différent, mais voilà, c'est pas fou non plus, quoi.
Non, c'est plus une introduction, mais c'est sûr que les fans le réclamaient, il y en avait besoin pour essayer de faire autre chose que simplement des vrais combats en boucle. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, parce qu'au final, je suis pas sûr qu'ils aient bossé énormément là-dessus, parce que c'est pas très compliqué, mais par contre, ça fait des... Ouais, ça titille un peu, en fait, mon esprit de fan. Et ça, j'aime bien. J'aime bien qu'on me caresse dans le sens du poil, et là, je suis prêt à lâcher pour Season Pass. Là, voilà, Sakurai, tu m'as eu, et ben, rien qu'avec ce mode, je paye. Voilà, tu sais ce que tu voulais, je paye tout ce que tu veux.
Et derrière, Sakurai, si... Alors, il va falloir lui acheter un petit dîner avant, mais si t'as envie de lui mettre des trucs, y a moyen.
Ouais, genre un dîner, un McDo ou un kebab, quoi, ça suffit.
Ouais, un kebab, c'est suffisant, on est bien d'accord.
Là, parce que déjà, avec les DLC, là, ça va coûter encore un pognon de dingue.
On a quand même des standards gens, assez bas, hein, je veux dire.
Ils jouent qu'à Smash Bros.
Oui, parce que, comme on l'a dit, il y a des DLC.
Putain. Donc, 5 DLC. Il y aura l'émissaire subspatial en DLC.
Ah,
ça vous ferait mal au cul. Ça.
Non, en vrai, c'est pas genre je me plains, mais on s'en fout parce que en soi, tu veux rejouer à l'émissaire subspatial, bah tu fais l'émissaire subspatial quoi. Mais oui.
Par contre, que c'était pas si bien que ça.
Petit pack de DLC. Et ça, je sais pas trop quoi en penser parce que ça dépend en fait de ce qu'ils vont mettre dedans quoi. C'est-à-dire que t'as en fait par pack de DLC, t'as un combattant, un pack de musique et un terrain.
Putain, 6€ en plus, je crois, non? Ouais, si, je crois, si, c'est ça.
6€ en plus, non ? Le mec est vraiment trop hypé pour la sortie. Mais voilà, donc, ils ont prévu 5 DLC, il me semble, c'est ça ? 5 packs
ouais,
de DLC.
Pas 6 ?
Putain, ça fait 30 balles
non,
en plus.
Non, ça fait 5, c'est ça. Ouais, c'est et du ça coup, c'est 25€ si
ça
ne passe.
C'est ça.
Ah oui, donc on t'offre un DLC si tu les achètes tous en avance.
Et sachant que la plante Piranha est gratuite si tu achètes le jeu à sa sortie.
Ah putain, oui.
Ouais, ça il va le falloir, de hein, toute façon, la plante Piranha, ça va devenir, enfin, ça va être compliqué de faire sans.
Après, c'est pas surprenant qu'il y ait des DLC, sachant qu'il y en avait déjà dans le précédent, et que tous les jeux de baston, maintenant, ont des DLC d'une façon ou d'une autre.
Ouais, mais je trouve ça toujours un peu décevant quand un jeu Nintendo sort pas complet. Ouais, enfin, c'est personnel. Hein.
On parle d'un jeu avec 74
combattants. 14 persos, mais c'est pas si énorme que ça.
Ouais, c'est clair, par rapport aux 12 de Street Fighter 2 ou
tu veux qu'on parle de
Wonderful 101.
Tu veux qu'on reparle de Street Fighter 1 ou de Street Fighter 5, pardon, où il est sorti avec 4 persos, 5 persos?
Alors, il y en avait 16, et après il rajoutait les autres au fur et à mesure.
Oh.
Il fallait payer.
On sait pas finir notre jeu, du coup, on vous fait payer le reste.
Ah bah pour le coup, c'était le modèle depuis le début, ils l'ont annoncé, c'est... on va sortir le jeu comme ça et puis on va le maintenir au fur et à mesure, sauf que la première année était absolument totalement ratée et puis du coup c'était pas très intéressant de continuer à jouer si tu voulais juste y jouer pour t'amuser de temps en temps quoi.
Effectivement, c'était bien pour les gens qui font de la compète en gros, mais c'est à peu près tout.
Et je pense que Street Fighter V est un jeu qui n'est joué que par des gens qui font de la compète actuellement.
Je sais pas, depuis le 4 je suis plus tellement donc... Je peux pas trop dire.
Ouais, le 4 qui avait une trentaine de persos aussi. Hein.
Tout à fait, enfin la version ultra en tout cas.
Enfin les dernières, mais ouais,
la toute dernière, tu commençais à avoir quand même sacrément du monde.
Celle qui est pas encore sortie sur Switch, wink wink.
Ouais, ils la sortiront pas, hein. Mais bon.
Ouais, c'est Capcom.
On sait jamais, on sait jamais, c'est possible.
Ah bah, Capcom ils sont à fond sur le 5, donc m'étonnerais. Mais...
Ouais. On va enchaîner sur un autre petit sujet que je vais vous amener sur la table. Il y a énormément de records de speedrun qui ont été battus sur des jeux Nintendo sur les 3-4 dernières semaines. La plupart du temps, ça va dater du mois d'octobre. Il y a notamment des records intéressants parce que des choses qu'on pensait pas voir tomber aussi bas que ça. Notamment Super Mario Bros, puisqu'il y a un runner qui s'appelle Somewes, qui a amené le record du monde de Super Mario Bros à 4 minutes 55 secondes 796 millièmes.
À tes souhaits.
Oui, les mecs en sont là, puisque le précédent record était de 4 minutes 55 secondes 972 millièmes. On en est là, les mecs grattent des dixièmes de seconde maintenant.
Ah ouais.
Et c'était un record sacrément optimisé, celui qui a été établi par un précédent runner il y a seulement un mois et demi, et donc il y a deux semaines, Somewes l'a battu et a gratté de dixièmes de seconde de plus. Il y a tout un tas de gens qui pensaient qu'on n'arriverait jamais à descendre en dessous de 4,56, et finalement il y a des gens qui sont à 4,55, alors effectivement assez haute. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se demander si on pourrait descendre en dessous de 4,55, ça va devenir de plus en plus compliqué. Surtout que là, même en tout assisted speedrun, donc avec des runs assistés,
à la frame près,
ouais. À la frame près, les mecs arrivent difficilement à descendre en dessous de 4,55. Donc, ça commence à être chaud, mais c'est intéressant parce qu'il y a encore des gens qui commencent à essayer de gratter quelques frames sur Super Mario Bros.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un des jeux les plus speedrunnés, c'est au millième parce que maintenant tout se tient dans un mouchoir de poche au pixel près, quoi.
Ça se tient au pixel près, et là en fait, entre le record de Somewes et le record précédent, ça a juste tenu à ce qu'on appelle un fast axel, qui est en fait un mouvement frame perfect à une sortie de tuyau qui lui a permis de gagner genre 3 frames ou quelque chose comme ça à un endroit bien précis. Donc c'est vraiment. Enfin, ça devient délirant, quoi. Les mecs sont des machines et c'est juste complètement ouf ce qu'ils arrivent à faire. Dans le même genre, Super Mario 64, il y a une run 16 étoiles, qui est le nombre minimum d'étoiles nécessaires pour finir le jeu, alors pas en mode normal, hein, en mode speedrun, c'est-à-dire effectivement en cassant un petit peu le jeu et en passant à travers certains murs, donc il faut ramasser 16 étoiles. Et il y a un record qui avait été établi par Monsieur Ouija64 en avril dernier, qui était à 15 minutes et 16 secondes, ce qui est assez bourrin, qui a été presque égalé par un monsieur qui s'appelle Aki, en août, qui a juste fait une frame de moins.
On dirait que c'est 40, genre.
C'est un truc, moi, je trouve ça complètement gueudin.
Perdu deux frames.
Le mec a gagné une frame, donc là, il a gagné le record du monde à une frame près, donc 30 millisecondes.
Mais ça se joue à tellement que dalle quand c'est vénère, le speedrun. Je me rappelle, le speedrun de, il me semble, le tout premier Super Mario Bros. Il y a un speedrunner. Vous chercherez sur YouTube, c'est très très facilement trouvable parce que c'est vraiment ultra impressionnant, qui a réussi à faire le meilleur temps possible théorique par un être humain, mais à la frame. Et le seul truc qui l'empêchait, c'est qu'il s'est cogné contre un bloc, mais sinon il avait tout bon, et donc du coup techniquement c'était un speedrun que personne n'aurait pu battre.
Sauf que le mec s'est cogné contre un bloc.
Et voilà. Et il a le seum à Persilard, je suppose, puisqu'il il s'est expédié en Antarctique.
Il me semble
qu'il s'est expédié en Antarctique. Mais c'est. Voilà.
Pour les speedruns un peu pratiqués, genre Mario Bros, t'as une chaîne YouTube qui est dédiée, je crois que c'était Mecton qu'on avait parlé une fois. Alors peut-être pas. Peut-être hors antenne. Où un mec qui justement expliquait tout ce qui s'était passé sur l'aspect speedrun de Super Mario Bros et puis d'autres jeux. C'était très intéressant.
Ça me parle. Oui,
tout à fait. Il y a des chaînes qui sont consacrées à ça, hein, des gens qui te font le résumé de tout ce qui s'est passé sur tel jeu depuis des années. On avait fait un article sur le dojo il y a quelques années pour expliquer comment Ocarina of Time on était passé de 3 heures et quelques de run à aujourd'hui moins de 20 minutes, avec tous les progrès qui ont été faits, tous les bugs qui ont été trouvés, et ainsi de suite.
Summoning Salt, la chaîne YouTube.
Ah, bah voilà. Merci beaucoup, monsieur Mecton. Donc, je continue sur Super Mario 64. Donc, acquis une frame de moins au mois d'août. Il y a un monsieur qui s'appelle Drozdowski, qui passe le record à 15
mon
minutes.
Mon cousin éloigné.
Tout à fait, c'est possible. 15 minutes et 15 secondes au mois de septembre, et Aki, le mec du mois d'août qui était quand même vénère, qui se dit, tiens, j'en ai rien à foutre, j'y vais, 15 minutes et 8 secondes. C'est-à-dire que le mec arrive après s'être fait avoir défoncé une frame, le mec défonce 8 secondes. Et là, il y a des gens qui sont en train d'essayer de courir pour le sub 15 minutes, c'est-à-dire se dire, bah, c'est forcément possible d'aller faire tout ça en moins de 15 minutes. Moi, je pense que c'est quand même très chaud, les mecs, il va falloir qu'ils grattent 8 secondes sur une exécution qui est déjà quasi parfaite.
Ils se mettent en apnée pendant le run, c'est quoi
Je pense que c'est ça, je vois pas d'autres possibilités. Pendant ce temps-là, sur Super Mario Odyssey, il y a un mec qui s'appelle Chaos Pringle qui a amené le record du monde de Super Mario Odyssey. Donc pour finir le jeu en mode normal, c'est-à-dire l'aventure avant le plus de lune. Donc c'est vraiment arrivé jusqu'au bout du jeu. En 1h55, ça commence quand même à être très bourrin avec... Alors ce qui est intéressant là sur celui-là, c'est qu'en fait quand tu regardes sur les 10 meilleurs runs aujourd'hui du monde, alors déjà c'est très divers, il y a des Canadiens, des Américains, des Japonais, il y a un Belge, il y a un Suisse je crois, il y a d'autres Européens, donc c'est quand même... c'est très... voilà, et toutes les runs sont différentes, c'est-à-dire que les gens ont leur propre stade d'optimisation et tout ça, il n'y a pas vraiment de convergence sur certaines techniques et autres, et les mecs utilisent à peu près tout ce qu'ils peuvent en fait, c'est-à-dire il y a des rebonds au chapeau complètement délirants dans tous les coins, en fait pendant une heure tu regardes des mecs qui rebondissent avec chapeau n'importe comment, et c'est assez ouf à regarder, je vous conseille de regarder de speedrun, même si c'est pas des records du monde, allez regarder, vous allez voir, il y a des manœuvres mais délirantes. Et aujourd'hui, les mecs sont rendus à se dire « En dessous d'une heure, c'est forcément faisable. » Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. « En dessous d'une heure, c'est forcément faisable.
Bah, » parce que les gars en sont là, quoi. Impensable à la sortie du jeu. Une heure, c'était même pas dans le... C'était même pas dans les meilleures espérances des speedruns.
Ah, clairement. Là, les mecs ont trouvé tellement de tricks. Je l'avais un peu sorti au début, mais
c'est fou furieux. T'as joué au poil de cul, maintenant. C'est incroyable.
Les mecs jouent de manière totalement... Enfin, c'est infernal. Là, le record du monde, il est tombé sur une optimisation des griffes de Bowser pour casser certains blocs. Je sais pas si tu vois le truc, quoi.
Ah, mais c'est fou furieux. Mais de toute façon, ça se voyait dans les toutes premières runs. Tu vois ce qui est optimisé, genre même si tu speedrun pas forcément. Tu vois qu'il y a des endroits où effectivement ça prend trop de temps. Et maintenant, franchement, c'est très 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 précis, quoi.
C'est surtout, c'est un jeu qui est vraiment récent et enfin qui à mes yeux est aussi très libre dans sa façon de te laisser faire le jeu en fait, et ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de strates différentes, et que moi je pense qu'une heure, ouais, c'est clairement réalisable, parce qu'ils peuvent ils ont pas encore trouvé la route parfaite comme il y a dans Mario Bros par exemple, et je serais assez curieux de voir ce que ça donne déjà un speedrun actuellement, parce que j'avais un peu regardé les essais de Mr. MV.
Ouais, c'est celui que je suivais au début.
Ils font tout au Nunchuck d'ailleurs, il me semble. Enfin, avec les. Non, pardon, Nunchuck au.
À la motion control, parce que ça permet d'aller plus vite.
Ouais. Sur les roulades, ouais.
Putain, c'est ouf, ça j'avais pas par exemple. Les mecs font tout au motion control parce que ça permet d'aller plus vite sur les roulades, quoi.
Quand t'agites les Joy-Con pendant la. Mario fait sa petite roue là, enfin sa petite roulade, il accélère. Et tu peux pas faire ça à la manette normale en fait.
Putain, c'est cool.
C'est hyper cool. Apparemment, c'est plus compliqué parce qu'il me semble que. Il me semble qu'au début, il jouait avec le Pro Controller. Et qu'après il est passé sur les Joy-Con. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Mais oui, enfin c'est ouf. J'avais même pas capté, quoi, qu'en secouant la manette au bon moment, tu faisais une roulette plus rapide.
Voilà. Et donc pour les trois petits derniers, il y a un speedrunner assez connu qui s'appelle Enop, qui speedrun Majora's Mask. Et en fait, c'est le détenteur du record du monde. Et aujourd'hui, il a abaissé le record du monde du 100%, donc l'intégralité des masques. Enfin voilà, 100%, donc finir tout le jeu à 4h38min40s, et en fait il a 16 minutes d'avance sur le deuxième mondial.
Mon Dieu.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la gueule de l'optimisation du truc. C'est-à-dire, le mec, c'est Schumacher, tu vois, il fait un tour, il te met 10 secondes, et t'es le deuxième mondial. C'est à peu près ça, hein. Le mec est une grosse bombe, et il a fait des trucs assez ouf.
Attends, mais combien t'as dit la durée du speedrun pour Majora?
4h38min40s. Ah, pour attends, un 100%.
Ouais, 16 minutes d'écart, c'est quand même pas mal, vu la durée.
C'est quand même pas trop dégueulasse. Je pense que le mec a bien géré. Il y a un certain Wall Aixong 19 qui a amené, toute fin octobre, le record du monde de Breath of the Wild à 33 minutes et 15 secondes, utilisant toute une série de nouveaux tricks un peu ouf, notamment des trucs qui permettent d'aller se projeter à des vitesses complètement folles, en utilisant évidemment la physique un peu pétée du jeu dans certains cas, mais le mec utilise des ennemis en fait qui va friser, monter dessus avec son bouclier, faire le surf, et en fait quand l'ennemi se défrise, il tire une flèche, je sais pas comment, et il se retrouve projeté à une vitesse démentielle, et en fait le mec passe du plateau du prélude au château de Ganon en l'espace de 10 secondes, un truc comme ça, enfin c'est assez pété comme truc. Alors pareil, les premiers records de Breath of the Wild qui étaient tombés, c'était à peu près une heure. Il y a une stabilisation vers 40 minutes où les gens pensaient qu'ils n'arriveraient pas tellement à gratter plus que ça, et là 33 minutes 15, ça commence à être sympa. Là les mecs commencent à se dire qu'il faut commencer à optimiser un peu Ganon. Donc je sais pas si tu vois là où ils en sont rendus. C'est, peut-être en utilisant Ganon, on peut peut-être gratter encore une minute ou deux.
Et donc, pas voilà, de Super Metroid
Pas de Super Metroid, mais par contre un Céleste.
Oh.
Un Céleste. Donc je le disais juste en antenne avant qu'on prenne l'antenne. Céleste, c'est speedrunné. Alors c'est le face A, je crois, donc c'est juste la première partie du jeu. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas la face B, face C qui n'existe pas encore.
Si, la face C existe.
Il y a une phase D qui a été teasée, me semble-t-il.
Sérieux ?
Bah, je crois.
Il est en train de bosser sur des DLC, apparemment.
Voilà. Okay. Donc, Céleste, il y a un runner qui s'appelle TGH, qui était le recordman du monde, qui avait un record du monde en 29 minutes 35 pour finir la phase A. Alors, je sais pas ce que ça représente, je joue pas à Céleste, mais quand tu regardes le jeu, tu te dis, ça va, les mecs, ils maîtrisent un petit peu, quoi. Et le mec était engagé dans une course avec un Brésilien, Fladervi, qui l'a battu pendant cette course-là, et qui a battu le record du monde en même temps, 29 minutes et 31 secondes, donc 4 secondes de moins. Et TGH, le gars d'origine, était tellement vénère qu'en fait, il a fait 10 heures d'affilée sur Twitch pour amener le record à 29 minutes 25 secondes. Donc c'est genre, non, c'est mon record, ferme ta gueule.
Et après,
donc,
il est mort.
Et après, il est mort. Après, il est décédé des suites de ses blessures. Voilà, et tout ça s'est produit en fait entre le mois de septembre et le mois d'octobre, donc il y a eu énormément de records qui sont tombés, et je vous ai même pas parlé, il y a eu du Super Mario Bros 2, il y a eu du Super Mario Bros 3, il y a plein de gens qui ont commencé à essayer de faire tomber énormément de records sur des jeux de ce type-là, des jeux qui sont speedrunnés depuis très 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 longtemps et dont on pensait sincèrement que les améliorations seraient extrêmement faibles. Super Mario 64, ça a surpris tout le monde qu'on arrive à gratter finalement pratiquement 10 secondes durant le mois de septembre, c'est quand même pas commun, c'est vraiment pas commun d'arriver à faire ce genre de choses-là, même dans le monde du speedrun, il y a vraiment des paliers qu'on a du mal à dépasser dans certains cas. Voilà.
Des machines.
C'est des machines. Nous allons faire une première petite pause musicale. Nous allons écouter un morceau, un grand classique de la NES. Enfin, un grand classique pour ceux qui l'ont connu, pour tous les autres, c'est « Ah putain, il était vraiment sorti sur NES ce jeu-là ». Non mais vraiment, hein, parce que c'est pas si facile que ça. Donc, nous allons écouter un petit morceau de Darkwing Duck, qui était un jeu Capcom. En fait, un Megaman, je pense que même il réutilise le moteur de Megaman parce qu'il y a tellement de trucs qui sont Megamanesques dans ce jeu que voilà.
Capcom, donc, recycler des choses.
Mais jamais de la vie.
On rappelle que Resident Evil 4 sort sur Switch dans pas longtemps. Hein.
C'est pas le genre de la maison.
À la surprise de personne. Hein.
À la surprise de personne. Voilà, donc Darkwing Duck sur NES, c'est la musique d'un niveau qui s'appelle Quacker Jack Stage, qui doit être le 2 ou 3ème niveau. On peut choisir l'ordre dans lequel on le fait, mais en général, c'est le premier niveau qu'à peu près tout le monde fait.
Oh putain, mais c'est Mister Mask, en fait.
C'est Mister Mask, oui.
Mais oui. Duck.
Mais oui, mais c'est trop bon. Mais c'est les Capcom Disney Afternoon, tu vois, c'est voilà, c'est juste génial. Let's get dangerous. qui était traduit comment, déjà? Ça va craindre un masque. Ça va craindre un masque. Non, attends, il y a des vrais VF. Voilà, donc ça dure à peu près 3 minutes. Pendant ce temps-là, je vous invite à nous contacter avec le hashtag Dojobar sur Twitter et sur Mastodon, à venir nous rejoindre sur Twitch, twitch.tv/nintendojofr si vous nous écoutez en podcast, ou nintendojo.fr/dojobar, toujours si vous écoutez en podcast, ça vous permet de nous écouter en direct. Vous pouvez même nous contacter par mail, bar@nintendojo.fr, on répond à tout, c'est promis. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Oh là, vous êtes tous tellement synchrones. Et nous allons aborder l'instant qu'est-ce que le fuck avec Galaxies.
Insérer le titre.
Avec, ouais, voilà, c'est ça.
Alors,
avec Pépita.
Avant tout, qu'est-ce que c'est comme petite chronique, hein, finalement. C'est un petit ramassis, un petit dégueulis de toutes les news un peu pétées dont personne n'en a rien à foutre mais qui font bien en soirée mondaine.
Ah oui, alors, en fait, c'est le little known fact pour briller en soirée.
Moi je exactement. Trouve que le côté, c'est un petit dégueulis dans un bar.
Petit dégueulis news. Alors, voilà, parce que du coup, pour ce premier bullshit news, fallait commencer fort. Heureusement, je pouvais compter sur Bethesda pour sortir la bêta de Fallout 76. Que Bethesda, il a eu la bonne idée de garder le même moteur physique que celui pour les jeux solo. Donc certains calculs sont liés à votre framerate, ce qui fait qu'il suffit d'un SLI de Raptor 1080X Titan et ou de regarder le sol pour marcher beaucoup plus vite que votre adversaire.
C'est drôlement pratique pour un jeu multijoueur quand même.
Attends, parce que ça c'est si t'as de la chance d'avoir pu lancer le jeu, parce qu'un autre bug dans le launcher supprimait tout bonnement les données du jeu. Les 50 gigas, oui, tout le jeu. Alors, et donc du coup, comment on fait si on peut plus jouer à Fallout 76?
Pokémon Go!
Ouais, ça c'est un meilleur jeu.
Exactement, mes chers confrères, beaucoup trop enthousiastes. Vous auriez raison si seulement Nintendo n'avait pas annoncé qu'en passant avec sa Pokéball Plus à côté de Pokéstop, on obtenait des objets bonus. On applaudit donc Nintendo pour avoir inventé le premier système de pay-to-win à base d'une manette. Mais du coup, si on peut plus jouer à Pokémon Go, on joue à quoi ?
Mario Odyssey !
Et oui ! Et bonne nouvelle, il est parfaitement jouable sur PC. L'émulateur Switch Yuzu permet effectivement de jouer à Mario Odyssey de manière totalement fluide, sauf dans les jeux, dans les zones à forte densité où il tombe à 5 FPS.
Quoi ?
Bah, c'est Nintendo, et donc du coup on pourra probablement jamais y toucher, c'est con. Oui, parce que Nintendo c'est des connards. Donc, ça nous laisse pas beaucoup de jeux, mais c'est pas grave, pleurez pas, vous pourrez toujours vous consoler en jouant au prochain Tamagotchi Evoli en regardant YouTube sur votre Switch.
Oui.
C'est la pire chronique du monde.
C'était très bien.
Non, ça sera mieux la prochaine fois. Oui, voilà, mais
là, c'était pas préparé en fait. Ça a pas l'air comme c'est ça. Ça fait très professionnel. Hein.
Mais c'était franchement,
c'était complètement impro.
C'était que de l'impro.
En vrai,
non mais voilà, mais pour revenir, enfin Bethesda, non, c'est quand même, je trouve ça un peu flippant que les mecs arrivent à effacer des trucs sur ton disque dur avec le launcher, c'est vraiment
non, mais,
super
oui.
Bug.
Alors à la base, les gens ont dit c'est un bug dans le jeu qui supprime tes données, et je trouvais ça hilarant. Genre tu te cognes contre un caillou, il y a le jeu qui dit non.
Qui s'efface ton disque dur.
Il y a le jeu qui s'efface, genre j'en ai marre. Mais non, finalement...
Le jeu considère qu'il est pas assez bon, du coup il s'efface de ton disque, il est pas digne, et du coup il fait ses poucou. C'est genre... je ne suis pas digne de ce, c'est un grand déshonneur et tac, il suicide.
Alors, les experts de jeux actuels te diront que ce n'est pas un bug, c'est une feature.
Non mais, ah oui, putain, c'est vrai, la fameuse régie pub hein, qu'on embrasse, on sait qu'elle nous regarde. mais, non mais voilà, et finalement, non, c'est que dans le launcher, donc choqué déçu, mais c'est pas grave, puisque le jeu est totalement buggé aussi, donc finalement, à quoi bon.
Enfin, c'est un jeu Bethesda.
C'est un jeu Bethesda. Parce que moi, quand j'ai dit que je comprenais pas Skyrim, on m'a expliqué, mais attends, voler jusqu'à la lune avec ton poney et t'écraser comme une merde au sol, puis voir un dragon surgir, c'est le meilleur événement du monde.
Et tu sais que...
Mais quoi ?
Comme le bug du framerate, de la physique qui est liée au framerate, est dû au fait qu'ils ont gardé le même moteur, c'est fort probable que dans Fallout 76, tu puisses grimper en allant un petit peu de biais les montagnes à pied.
Putain, c'est pas possible, quoi.
Je pense qu'il n'y a aucun problème.
Mais alors, je gueule souvent sur les développeurs qui utilisent systématiquement le Unreal Engine pour un petit peu tout faire, y compris des trucs pas forcément très adaptés pour ça. Mais je me dis que Bethesda, finalement, les moteurs maison, c'est peut-être pas vraiment leur truc. Il ferait peut-être bien d'acheter un moteur commercial, et puis c'est pas grave, quoi.
Ah, ça va devenir le MMORPG le plus cassé de tous les temps, quoi.
Alors qu'il est même pas sorti, hein. C'est une bêta, attention.
Oui, mais ça, c'est normal qu'une bêta, ça... il y ait des bugs, mais le problème, c'est que c'est Bethesda.
Oui, c'est ça, c'est la bêta qui sorte. C'est Bethesda. Enfin,
est-ce que Bethesda, vous avez déjà connu des jeux dans ces dernières années qui n'étaient pas ultra buggés ? Je veux dire, tous les trucs que j'ai vus sur Fallout, le jeu est buggé à mort.
Mais c'est...
Skyrim,
le
c'est
jeu
pareil.
De cartes de Skyrim, non ?
Putain,
il n'est pas buggé, celui-là, c'est juste un jeu de cartes.
Jeu de cartes, ouais, de Skyrim. Elder Scrolls Legend. Ah non, mais
ouais,
oui,
voilà,
ça, le problème, c'était pas les bugs, c'était le jeu.
J'ai cru que c'était un jeu de cartes.
Ouais, bah, non, mais
non. Bah, non, ça, c'est déjà une feature de Skyrim, ça. Avec les chevaux, sur les montagnes.
Ah oui, la seule feature que j'en vois, c'est les chevaux de Red Dead Redemption 2 qui se cognent contre les arbres.
Ah non, mais...
YOLO !
Alors oui, non mais parce que c'est pas le pire, parce qu'il y a aussi le cheval de Red Dead Redemption qui fait un salto dans
oui,
le vide.
Ça c'est normal.
Et qui se brise la nuque. je sais pas si vous avez déjà vu un cheval qui fait ça, mais si oui.
Déjà vu.
Appeler une ambulance parce que justement vous êtes
appeler les services sanitaires, appeler un vétérinaire, je veux dire, faites quelque chose. Bref, nous allons enchaîner avec notre rubrique Le monde merveilleux du jeu vidéo, avec une nouvelle triste, une nouvelle qui fait réfléchir.
Mon dieu, oui.
Ah non, mais ça va être... attention,
ça va être... dans le milieu.
Ça va être... comme on dit dans le milieu. Il y a une rumeur, il y a une semaine, comme quoi Konami allait... Alors, je sais pas si c'est effacé ou
sortir plombé. Un bon jeu.
Désactivé, ouais.
Désactivé.
Une
Pity, playable teaser, le fameux...
Je vais vérifier.
La fameuse démo jouable de Silent Hill qui a été mise à disposition, téléchargeable gratuitement, qui a été retirée ensuite du PSN et que maintenant il y a des PS3 qui se vendent à prix 4. D'or, des PS4 pardon, qui se vendent à prix d'or sur eBay parce qu'il y a Pity dedans et que le jeu n'est plus téléchargeable. Et donc apparemment il y a eu des gens qui ont dit merde, ça y est, Konami a décidé d'aller effacer sur les PS4 de tout le monde Playable Teaser, le jeu va disparaître, c'est la panique. Et en fait, bon, ça s'est avéré être faux. Mais ça pose quand même 2-3 questions, c'est-à-dire ce playable teaser qui avait effectivement bien allumé tout le monde, qui était la dernière œuvre de Hideo Kojima, et qui avait l'air sincèrement très intéressant.
Guillermo del Toro.
Moi je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu, ils veulent l'effacer, c'est parce que Kojima ne veut pas qu'on pense qu'il a fait un bon jeu dans sa carrière.
Ah, t'es un gros bâtard.
Ça c'est vache, ça.
Ça pose quand même des vraies questions. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on est réellement maître du matériel qu'on achète aujourd'hui? C'est-à-dire, si aujourd'hui une démo est retirée de l'eShop, est-ce que Nintendo se permettra d'aller l'effacer sur la mémoire de toutes les consoles, de tous les joueurs? On pourrait imaginer que pour des raisons légales, ils pourraient le faire. Je sais pas si quelqu'un découvre qu'en fait il y a une grosse photo de bit accessible avec le Konami Code dans tel jeu. Est-ce que le jeu sera retiré de l'eShop et par conséquent, est-ce qu'il sera retiré des consoles des joueurs en attendant de régler le problème, par exemple? Est-ce qu'on pensait que c'est des choses qui sont envisageables? C'est-à-dire que les mecs, je sais que Apple l'a fait sur certaines applications, Google l'a fait sur certaines applications Android.
Je verrais plus une mise à jour qui supprimerait justement le problème. Quand on prend ton exemple, je veux dire, plutôt que supprimer purement et simplement le jeu, parce que ça reste quand même Nintendo. Mais on a déjà vu des jeux disparaître de plateformes comme Steam ou autre, et c'est vrai que ça, bon, en général c'est quand même des jeux pourris, faut pas se le cacher, mais ça peut être inquiétant pour l'avenir. On n'a pas de support physique pour les conserver, même s'ils sont pas très bien, et ben je trouve ça triste de voir ce patrimoine disparaître un jour.
Bah, c'est Pity en plus, ça fait partie des trucs où en l'occurrence le truc est pas trop mal en plus, donc tu vois, c'est, pour une démo c'était assez ouf quand même.
Ouais,
le mec avait mis tout un tas d'idées dedans.
Parce que, à effectivement, tel point qu'il y a eu des remakes de la démo.
Complètement. Parce que, mais à quel point que ça a influencé tout un tas de walking simulator d'horreur qu'on trouve aujourd'hui sur Steam en accès anticipé ou pas, à quelques euros. Je pense à Darkwood, je pense à... Il y a un truc qui s'appelait Silence, je crois. Enfin, on en a vu plein entre deux arriver. Non, pas du tout. Chut. Et voilà, on a vu plein de jeux s'inspirer de ça, où t'avais effectivement une espèce de walking simulator à la première personne qui se situe dans une seule maison avec des lumières qui clignotent, des trucs qui font peur, des machins bizarres, des bruits chelous, qui est quelque chose qu'on voyait pas tellement avant que Pity soit sorti et que les mecs voient que... Ah mais mange tes chips, Antix, ça te gêne pas.
Ouais, avec plaisir.
Ouais, voilà, non mais franchement, cette émission, ce n'est pas une émission de gaudriole où on fanfaronne à tout va, monsieur. Voilà, mais je trouve ça inquiétant parce qu'effectivement il y a la question de comment est-ce qu'on va conserver ces jeux-là, même s'ils sont très moyens. C'est pas... Le fait qu'ils disparaissent, c'est un peu dommage, ça veut dire qu'il y a le travail des gens qui a disparu. Alors il y a des fois, ce serait plutôt une bonne chose. Je pense que si le travail de David Cage disparaissait, moi personnellement, je tomberais pas de ma chaise. Non, mais même là, ça me ferait chier, en vrai.
Bah, ça reste la disparition de patrimoine, et mine de rien, même les... En tout cas, ce qu'on considère comme des mauvaises œuvres. Ça influence de toute manière le reste.
Ouais. Ça donc, peut être effectivement des étapes nécessaires.
Que ça soit bien ou mauvais, pour le coup, la Pity était, d'après ce que j'ai compris, très bon, au point d'influencer les autres. Mais faut pas oublier que même les mauvaises œuvres influencent forcément. Ça a forcément un impact. Donc
c'était une œuvre intéressante, Pity, et même en tant que démo, enfin purement démo, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à expérimenter. De préférence dans le noir, tout seul dans une chambre peu dans une chambre. Et c'est dommage que Konami veuille à ce point effacer Kojima de son histoire, parce qu'il y a aussi un peu de ça, je pense, derrière cette rumeur, c'est qu'ils sont pas vraiment partis en bon terme, si j'ai bien compris. Et il y a un petit peu ce côté, je pense qu'ils aimeraient bien s'en débarrasser en fait.
Ils aimeraient bien désassocier l'image, enfin désassocier les licences Konami de l'image d'Hideo Kojima. C'est-à-dire quand tu vois Metal Gear Solid Survival, enfin Survive, il n'y a plus une seule mention d'Hideo Kojima nulle part, je crois. Et ce qui est normal, hein, il n'a pas participé au jeu, mais les mecs, ça les arrange bien, hein, qu'effectivement, il n'y ait plus du tout ça, par rapport à Metal Gear Solid 5, où il y avait produit par Hideo Kojima, réalisé par Hideo Kojima, animé par Hideo Kojima, sur une histoire d'Hideo Kojima, basée sur une histoire vraie d'Hideo Kojima, basée sur la vie d'Hideo Kojima. Oui, non, mais ça, bon, c'est un problème secondaire. Mais après, on peut ne pas aimer Metal Gear Solid 5, et je peux parfaitement l'admettre, mais effectivement, Konami, ça doit quand même bien les faire chier. Parce que s'ils veulent rééditer le jeu, ils seront obligés, je pense, contractuellement, de mettre le nom d'Hideo Kojima absolument partout sur le truc, et ça leur casse les couilles, quoi.
C'est pas possible que ça lui octroie des droits d'auteur au vu de la présence de son nom sur la jaquette du jeu.
Bah, complètement. Mais en plus, oui, c'est pour ça que je me dis que, voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même... Enfin, ce genre de rumeur peut être pris au sérieux. C'est-à-dire, il y a vraiment eu une espèce de mouvement de panique de gens qui se sont dit « Vite, faut que je débranche ma PS4 parce que on va m'effacer pitié de ma PS4 et j'ai absolument pas envie de perdre ce truc-là. » Donc les gens sont attachés. Je trouve ça intéressant parce que on a eu des exemples dans le passé de Apple ou Microsoft qui effaçaient à distance des applications du téléphone des gens. Donc les gens ne sont plus vraiment maîtres de leur matériel et s'en rendent quand même un petit peu compte.
On a même eu Poutine qui efface à distance les gens tout court.
Mais complètement. Mais complètement.
Depuis son bureau.
Depuis son bureau, il appuyait sur des boutons. Il effaçait des gens sur Twitter. Donc il y a ça, qui est en soi quelque chose d'inquiétant et que les gens commencent à se rendre compte que voilà. Il y a le fait que les gens tiennent absolument à cette démo-là qui effectivement est aujourd'hui non sauvegardée de manière pérenne. Alors je sais pas s'il y a des versions pirates qui existent, peut-être.
Je crois qu'il n'y a même pas moyen de la retélécharger si tu l'as déjà téléchargée.
Il n'y a plus moyen de la retélécharger.
Ah non, mais c'est pour ça qu'il y a des. C'est pour ça que ça a été, je pense, ça a été aussi pris comme quelque chose de vrai sans forcément que les gens vérifient la source. C'est que. Clairement, Konami veut totalement effacer Kojima de son histoire, donc ça paraissait totalement logique qu'ils empêchent. Totalement plausible qu'on empêche les gens de jouer à Pity, même ceux qui l'avaient encore.
Et je trouve ça quand même ouf. Alors moi, la vraie question, c'est est-ce que Sony ou Microsoft ou Nintendo auraient vraiment les moyens techniques, hein, j'entends, comme Google là sur les Android et comme Apple là sur les iPhones, d'aller effacer un jeu à distance.
Ah, après, je sais pas, mais
voilà,
le bloquer,
c'était pas un effacement, c'est ça. C'était le truc, te rajouter un pauvre test à la con au lancement du jeu qui fait que le jeu se lançait pas.
Ah putain.
Voilà.
En fait, c'est une mise à jour, quoi.
C'est ça, c'était un update. La rumeur parlait d'un update.
Putain, c'est vraiment dégueulasse.
Ah ouais.
Ah oui, mais ça reste une rumeur, ça a pas été fait.
Là, ils auraient la capacité à le faire. Ce serait
c'est tout con à faire.
Ah bah, totalement. Mais même, je pense, tu as juste ajouté un point back au point exe, je sais pas quoi, ça marche. Enfin, tu changes le nom d'un fichier, le jeu se lance pas et puis ça passe.
Surtout, la majorité des consoles maintenant ont mise à jour automatique de par défaut sur tous les jeux. C'est pas très compliqué de faire passer ça en force. Hein.
Ouais, mais ce serait brutal. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une réaction de joueurs si ça se passait? Je veux dire,
oui, mais
pour quelque chose, j'entends pour quelque chose.
Des gaulois réfractaires.
Define True False Albatar. alors, mec, j'avais déjà fait un truc bien pute comme ça. J'avais fait Define en préprocesseur. Define Size of Random.
Oh putain.
Le mec qui faisait un Size of, ça faisait un random systématique. Je te garantis qu'il y en a qui ont pété des
points. Ah ouais, lol, Adrien, t'as compris.
Ouais, j'adore. J'ai un colloque bientôt sur le comité social et économique. Venez, ça se passe dans un film chez l'hôpital.
Size of, c'est une fonction qui est énormément utilisée parce que ça te permet d'aller déterminer la taille d'une variable. Donc, d'une zone mémoire. Tu vas aller dire, par exemple, la taille d'un entier, c'est quoi?
Size of, c'est rare.
Ça répond à plusieurs gigas. donc tu dis la taille d'un entier, le truc te répond 2 octets par exemple. Donc si à la place tu mets random, le mec il demande la taille d'un entier, ça répond 16380, mais il y a plein de trucs qui vont beaucoup moins bien marcher dans son programme.
c'est compréhensible.
Voilà, c'est très pute.
Mais honnêtement, je pense que les gens gueuleraient, mais finalement à quoi bon, j'ai envie de te dire.
Non, parce mais fois jusqu'où ça pourrait aller, je veux dire, t'imagines, est-ce que les mecs pourraient faire des pétitions, est-ce que les mecs pourraient aller réclamer ça, est-ce qu'ils pourraient...
Ça change rien, vous le savez bien.
Et puis quoi, les écouter après.
Non, mais tailler une réputation de bâtard à Sony derrière aussi. Hein.
C'est déjà le cas.
Organiser un boycott, organiser un truc comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une réaction éventuellement très forte? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire reculer Sony, par exemple? Si on prend l'exemple de Sony, hein, si on dit Sony a vraiment laissé
Sony,
passer ça.
Oui. Honnêtement, Sony, oui. Je sais pas, mais Konami, je pense pas, genre, ils s'en foutent. Mais Sony, oui, il a aucun intérêt à soutenir ça, quoi.
Clairement, Sony aurait presque intérêt à racheter le concept du jeu et à le sortir lui-même.
Hein. C'est clair. Bah, je sais pas si on pense les autres, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, quoi. Clairement, des guerres en interne des éditeurs.
Des problèmes des éditeurs avec leurs anciens créatifs, ouais, à mon avis, ils en ont pas grand-chose à péter.
Oui, c'est vrai.
Bon.
Surtout ouais. Quand le dit ancien créatif produit un jeu AAA exclusif pour ta console.
Un peu, oui. C'est vrai que globalement... Et qui en plus est sous contrat... C'est pas Sony qui a injecté du pognon dedans, en plus, il me semble.
Sur Kojima, si, peut-être, parce qu'il est...
Si, carrément, on est
c'est une exclu. Mais non, mais au-delà du cas Kojima, je pense que s'il y avait pour n'importe quel jeu ce genre de news, je pense que ce serait Sony qui ferait le premier pas en arrière. Enfin, en tout cas, l'éditeur de la... L'éditeur de la vidéo, l'éditeur de la
plateforme.
Oui, voilà, de la console, d'accord. Pardon. Le constructeur, ah, pardon.
Le constructeur, voilà. Hein. Mais ce que je me demande, c'est dans ce genre de cas, c'est-à-dire, imaginons, il y a un jeu qui sort sur les trois consoles, effectivement, c'est qui le premier constructeur qui va refuser d'aller plomber le jeu ou qui va au contraire le déplomber dès qu'il va voir que ça part en couille. Oh, toi, tu dis Sony. Moi, j'aurais tendance à dire Sony aussi. Je pense que Microsoft sera plutôt dans les derniers, parce qu'ils sont très cons.
Et Nintendo, il cherchera à comprendre la question.
Je comprends pas la question.
Ce serait
la réaction de Nintendo.
Comment sur quel bouton appuyer pour virer le jeu? Je comprends pas.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites.
Comment ça, mise à jour? Qu'est-ce
pas.
Que vous voulez dire?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous l'appelez?
Comment vous l'appelez?
Mise à jour. Oui, c'est pas le truc pour essayer de ralentir les pirates?
Oh, le méchant. Bref. On va faire une deuxième pause musicale, on va continuer sur la bande originale de Darkwing Duck et on va écouter le stage de Bushroot qui était Redim ou du genou en français. C'est quand même extraordinaire. Mais vous voyez à quel point les mecs se cassaient le cul pour essayer de faire des traductions de bâtards. Et donc c'est un stage très avancé parce qu'en fait, c'est comme un Megaman, en fait, fallait choisir dans les trois premiers stages. Une fois qu'on avait battu les trois premiers stages, on pouvait faire les trois stages suivants et après le stage du boss final, du true last boss. Donc là, c'est un stage relativement avancé. Voilà, ça dure 3 minutes, comme l'autre extrait. Et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Oh, Super Mario Odyssey. Ah,
on m'a dit de parler moi-même fort et je parle moi-même fort. Hein.
Mais personne n'a demandé de parler moi-même fort. Qui c'est qui a demandé ça?
On m'a demandé de parler moi-même fort et je parle moi-même fort. Hein.
Mon dieu. Alors si c'est pour partir en accent toulousain, genre à partir de maintenant, on va arrêter l'émission tout de suite. Hein.
Non, ah. Galaxus va arrêter sale. L'émission. Nous on va continuer.
Bien, on fait l'accent belge et on invoque Méduse.
on va summoner Méduse une fois. On va voir si elle va répondre. Alors, Méduse a plus tendance à répondre qu'à répondre. Hein,
c'est, quand même, c'est vrai. Voilà.
Mais c'est une question de principe. À propos de répondre, nous allons parler de Dark Souls.
Alors, attends.
Ah, voilà, il va y avoir besoin. J'espère que c'est de l'alcool pour arriver à tenir, parce que c'est compliqué. Alors, monsieur Mecton et moi-même...
Sommes des victimes.
Des victimes de From Software.
Faites entrer l'accusé.
Avons acheté Dark Souls un peu à l'aveugle. Alors moi j'avais joué un tout petit peu à Dark Souls 3, mais genre 2 heures maximum. Et
pareil qu'il est mieux.
Et sans faire grand chose en fait dedans. J'avais l'impression de contrôler une enclume et c'était à peu près ça. Mais je n'avais pas joué à Dark Souls 1. J'avais regardé des choses sur Dark Souls 1. Il y avait tout un tas de gens qui avaient fait des vidéos très intéressantes. On a mentionné Mike Brown, qu'ici on connaît très bien pour la série Boss Keys. Qui avait analysé les donjons de Zelda, qui avait essayé de venir avec tout un tas d'outils pour essayer d'analyser la linéarité ou la non-linéarité des jeux, et qui avait fait tout un tas de trucs sur Dark Souls en disant « Ça, c'est génial, c'est vraiment le meilleur jeu du monde !» Pas du tout, en fait. Il a juste dit « Le level design est assez ouf », et là-dessus, je pense qu'il a un petit peu raison.
Oui.
Mais, à côté de ça, c'est vrai qu'en dehors d'un monster design sympathique... Mais
classique pour de la dark fantasy, comme tu disais.
Voilà, c'est-à-dire les gens qui ont lu Berserk ou des trucs de dark fantasy, même des comics américains de dark fantasy, pas The Thing, putain, comment ça s'appelait? Bon, j'ai plus le nom en tête.
Swamp Thing?
Non.
Non, c'est pas du tout de la dark, pardon.
Pas du tout, c'est.
Merde, c'est comics, ça, something.
Enfin voilà, pour ceux qui ont lu de la dark fantasy, Voilà, il y a des trucs très intéressants, il y a des, effectivement des machins rigolos, mais il n'y a pas grand-chose de bien... voilà, il y a des vagins suintants avec des squelettes dedans, très bien.
Ah,
finalement,
des squelettes sur des roues, ils courent, putain.
Non mais voilà, non mais après il y a des trucs, il y a des trucs un peu, voilà. Moi les moules géantes par exemple, ok. Mm. Des clames géants, je n'ai pas trouvé ça très intéressant.
Est-ce que c'est vraiment l'intérêt principal dans Dark Souls?
On le cherche en fait.
Mon problème c'est bien qu'on le cherche. La première question que j'ai mis dans le conducteur c'est est-ce que ce jeu a été largement surévalué par tout le monde? Parce que honnêtement, c'est la première fois que j'y jouais, mais que toi aussi.
Oui.
Le level design est ouf, ça je suis d'accord, mais finalement pas beaucoup plus ouf qu'un Metroid Prime.
Voilà, c'est un bon standard de qualité quand même.
C'est un bon standard de qualité. Il est plus vertical que Metroid Prime, ce qui est assez impressionnant dans certains cas.
Ah, t'es peut-être plus avancé que moi, mais ok.
Non,
mais
je trouve que le truc est quand même très très vertical. Et quand tu regardes la carte de Dark Souls, la représentation de la carte de Dark Souls en 3D, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont fait...
D'accord, parce qu'elle est où la carte? Parlons.
Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte, mais comme tu
ce
reviens...
Ce qui est un choix,
vite fait quand même. T'aurais une carte en bas à droite de l'écran, ça tuerait personne, hein.
Ça reste un choix, c'est un choix de merde, c'est tout.
Voilà, c'est un peu ça. Non, mais moi, mon problème, en fait, c'est... la carte est ultra compacte. En fait, le jeu, il est... Si t'avais pas à te retaper tous les ennemis de merde qui sont sur ton chemin à chaque fois que tu crèves, je suis sûr que le jeu, tu le bouclerais en 3 fois moins de temps.
Et ça, ils l'ont compris, parce que dans leur prochain jeu, ID Software, c'est ça ?
From Software.
From Software. Tu as la possibilité d'avoir un revive en fait. T'arrives au niveau du buff. Sekiro, voilà. Sekiro Shadows Die Twice.
Ah oui, donc tu peux aller te poser un point de spawn juste de là où tu veux en fait, en quelque sorte. Tu peux aller monter une espèce de feu de camp mobile à n'importe quel endroit.
Ouais, en quelque sorte. Je sais pas si c'est là où tu veux à la manière d'un Ori and the Blind Forest ou si c'est imposé. Si c'est genre un checkpoint unique. Mais en tout cas, t'as la possibilité de refaire le boss, d'avoir un nouvel essai sans te retaper tout le chemin. Ah. C'est vrai que c'est incroyablement frustrant.
Bah, en plus d'être incroyablement frustrant, c'est incroyablement inutile. Et ça t'apporte rien. Et au bout d'un moment, je comprends le fait de dire finalement, t'étais à un feu de camp, tu explores une zone, tu te fais tuer, bon, tu recommences, tu réexplores la zone, tu connais mieux la réaction des ennemis. Et encore, parce qu'en fait, les réactions des ennemis, c'est à peu près toutes les mêmes. Et en fait, les ennemis, tu les bats toujours de la même manière parce que le système de combat, il pue duc.
C'est ça. Comment décrire ça aux gens?
En gros, tu avances, tu recules, comment veux-tu qu'on y arrive. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, faut surtout pas essayer de combattre plusieurs ennemis à la fois.
Non.
C'est un peu comme les zombies dans Resident Evil. En fait, individuellement, ils sont pas très dangereux. Mais dès qu'ils sont en groupe, ça devient relou parce qu'en fait, le crowd control, tu peux quasiment pas le faire vu que ton personnage réagit pas. Comme dans Resident Evil d'ailleurs. Hein, tu t'es lent comme c'est pas permis. Et j'ai l'impression à chaque fois que, entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où le coup part, il se passe une seconde et demie, ce qui est absolument insupportable.
Ce qui est le cas.
Ce qui est probablement le cas d'ailleurs, effectivement. C'est-à-dire, tu t'appuies pour déclencher le coup. Ça appuie pas pour taper.
Je crois que c'est vraiment volontaire de leur part de mettre autant de délai entre l'attaque entre le moment où t'appuies sur le bouton et le moment où l'attaque touche.
Oui, voilà. Mais après, moi, dans le principe, ça me dérange pas. Mais du coup, ça fait que les ennemis standards du jeu, qui, je rappelle, ne servent pas à grand chose. Hein.
Farmer boss... un peu d'XP, quoi.
Ouais, voilà, mais les boss sont intéressants, mais en fait, même pas, parce qu'au final, les ennemis standards du jeu, c'est pas là-dessus que tu vas gagner de l'XP. Hein.
Non.
Quand tu vois que les ennemis... Tu vis d'une zone complète, genre la paroisse des morts-vivants, quand t'arrives en haut, t'as éliminé le cochon. Ouais. Voilà. Tout le bordel.
Le gros ennemi de la zone.
Le gros ennemi de la zone et tout ça. Lui, il rapporte pas mal d'âmes, ok.
Ouais.
Mais en fait, vider l'intégralité de la zone, ça te rapporte quoi? 1200, 1300 âmes, un truc comme ça? Ça fait même pas un niveau. Ça fait un niveau quand t'es niveau 2, quoi. Mais...
Ça augmente un peu dans les zones suivantes, mais ça. Oui, non, je suis d'accord. Globalement, c'est
le menu frottin. Voilà, le menu frottin rapporte pas grand chose. Les boss rapportent parfois 2, 3, 4, 5 niveaux faciles. Bref, donc tu te déplaces dans ces putains de zones, et effectivement, tu ratisses la zone, tu meurs, tu reviens au feu de camp, tu ratisses la zone un peu autrement, il y a des endroits, tu sais que t'as plus besoin d'y aller parce que t'as ramassé l'objet, parce que tu sens que c'est un cul-de-sac et ça sert à rien, donc t'apprends au fur et à mesure que tu meurs, et pourquoi pas, je veux dire, cette mécanique-là est pas forcément inintéressante, et encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, le boss, la première fois, t'as ouvert un raccourci qui te permet d'aller au boss plus vite, c'est cool. Bon, tu traces la route une fois pour aller vers le boss. Tu sais peut-être pas toujours bien appréhender les ennemis, donc c'est pas inutile, mais au bout de la 10e fois, bah en fait, ça sert plus à grand-chose. Et juste, t'aimerais bien recommencer le boss tout de suite, parce que t'aimerais bien pouvoir tester une autre strat et pas te retaper...
L'étudier un peu, voilà.
10 minutes de gameplay avant de te retaper l'autre strat, quoi. Et moi, je trouve ça inutilement frustrant. Que le jeu soit frustrant pour t'encourager à recommencer, pourquoi pas, mais là, je trouve... Moi, ça m'a juste dégoûté, en fait.
C'est ça, c'est plein de petits trucs qui sont mal branlés, qui... Enfin, typiquement, sur une mécanique de Die and Retry, pour moi, ce qui ferait toute la pêche du jeu, c'est un respawn quasi instantané, quoi. Et là, non, quand tu crèves, tu tapes un temps de chargement qui doit faire 10-15 secondes, t'as le temps de serrer les mains sur ta manette, hein.
Non, mais en plus, oui, mais en plus, t'es obligé de te retaper tout le chemin, y compris des ennemis relous qui, de temps en temps, dans 80% des cas, ils ont une réaction qui est comme ça, c'est-à-dire ils balancent une bombe à côté de toi, et puis bah, cette fois-là, bah, ils te la balancent en pleine gueule, t'as perdu la moitié de ta vie, et t'es obligé de te soigner, et t'arrives au boss, bah, t'as 10 fluides, t'as plus que 5 fioles d'estus au lieu de 10, et t'as l'air con. Et. Enfin, je veux dire, le challenge, ok, mais le challenge débile, est-ce qu'on est vraiment obligé? Ouais.
Alors après, le truc qui nous a vraiment frustrés tous les deux, mais à mort, c'est que ce putain de jeu ne t'explique rien.
Et ça, c'est pire que tout.
C'est horrible.
Arrêtez, je suis assez d'accord avec toi. Il y a des griffes au sol où il y a marqué Guide Good. Sauf que c'est... je vous trouve un peu de mauvaise foi sur ce point-là. D'accord.
Non, mais non, tu récupères des objets, tu sais pas à quoi ils servent, jusqu'à ce que tu trouves le bouton qui te permet de lire la description du truc.
Mais c'est même pas ça, attends, il y a même pire que ça. Tu récupères un objet, il y a beaucoup d'objets qu'en fait tu peux savoir ce que c'est, enfin tu peux savoir ce que ça fait qu'une fois que tu les as utilisés. Et il y en a des objets, ouais. Si tu les utilises, tu l'as dans le cul.
C'est ça.
Et comme le jeu sauvegarde en permanence parce qu'il est buggé si ta console est pas sur le fuseau horaire de Tokyo, true story. True story.
Quoi non, ouais, voilà. Ça
tout va bien.
Le dragon, c'est ça, non?
Non, si ta console est pas sur le fuseau horaire de Tokyo, elle sauvegarde en permanence en fait.
D'accord.
L'icône, tu regardes l'icône en bas en haut à droite, la petite flamme, elle est en permanence, alors qu'elle devrait pas.
D'accord. Ah d'accord.
Bref.
C'est cool. Ah,
mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, non seulement on t'explique pas l'utilité des objets.
Il faut que ça revient.
C'est ce qui est déjà assez atroce. C'est-à-dire que tu récupères, moi l'année dernière, j'ai récupéré une tourte à la bouse. Je suis content. Merci beaucoup.
Merci.
Je vais en faire quoi? Et en plus, je peux même pas la vendre. Il y a personne qui achète. Il y a aucun marchand qui achète des objets parce que c'est pareil. Tu te trimbales avec tout un tas d'armes et d'armures que dont tu ne te serviras jamais.
Oui.
Et tu peux pas juste les vendre, même si tu les vendais à un prix ridicule, pour récupérer des âmes, pour pouvoir acheter d'autres objets, pour pouvoir gagner des niveaux, pour pouvoir renforcer les armes dont tu te sers vraiment.
Ça farmer un peu du truc. Ouais.
C'est débile. C'est débile.
Et là où ça me fait péter un câble, c'est quand j'ai craqué. Hein, j'avoue, tu regardes un bout de Solus pour dire c'est pas possible, je suis con. Je rate un truc et les mecs te disent ah mais si, il suffit de craquer une humanité, invoquer tel pélo et le boss tu le tombes en 2 minutes. Je dis mais où on me le dit ça dans le jeu, qu'est-ce qui me l'indique?
À un moment l'espèce de pseudo lore qu'ils ont essayé de mettre en place, ça aussi je trouve ça ignoble,
putain de gâchis quoi.
Mais l'espèce de pseudo lore qu'ils ont essayé de mettre en place dans lequel on t'explique rien, enfin il y a pas de scénar et je suis désolé, il y a pas de lore. Les mecs ils disent ah tu as trouvé les chaussons sacrificiels de Lothrak premier, il les a utilisés lors de la grande purge d'Astoria pour prendre un bain de pied dans le sang des sangliers désincarnés qu'il avait lui-même. Et il dit mais va te faire enculer, dis-moi juste à quoi ça sert les chaussons sacrificiels. Commence par ça. Si tu veux mettre du lore, mets du lore, mais commence par m'expliquer à quoi c'est comme l'objet.
Les cartes Magic, t'as genre rien, t'as du lore et en bas t'as marqué au fait elle est vachement bien.
Ouais, plus 2 en attaque lorsque vous êtes à couvert dans un bois. Voilà, moi je demande pas plus que ça. Mais même les armes, les mecs te disent oui, alors c'était un talisman très utilisé par les moines tibétains du 19e siècle lors de leur adduction.
Tu peux pas l'équiper.
Voilà, c'est ça. Tu sais, par exemple, il m'a fallu, mais je sais pas combien de temps, pour comprendre qu'en fait, il y a des armes que tu peux pas équiper. Parce que t'as pas assez de force. Ça, le truc te le dit, ça va pas marcher.
T'as une icône rouge en plus. Voilà. Ouais. Ça, je l'ai vu hier. Par contre, à l'inverse, là, j'ai une arme qui me file un bonus. Je sais pas d'où il sort ce bonus.
Mais ça doit être indiqué, mais c'est le lore.
Je le garde, hein, c'est cool. C'est très cool. Ça me facilite un minimum la vie, mais.
Est-ce que c'est l'écusson végétal qui augmente ton endurance?
Non, c'est la hache des gargouilles. Genre, j'ai une petite icône avec un bouclier vert. J'imagine que je tanque un peu mieux. Voilà.
Non, ce n'est pas sûr.
D'accord.
Moi, j'ai récupéré la pierre. Attends, c'était l'anneau de pierre lune bleue. qui, alors, je, alors c'est, alors pareil, c'est le quatrième fils du roi de Draco, la contrée lointaine perdue au lointain dans les montagnes en dessous de la paroisse des morts vivants.
La deuxième à droite après le feu rouge.
Voilà. Qui avait un jour sacrifié son meilleur fils pour arriver à récupérer l'humanité perdue, au nom de « mais va te faire enculer, on s'en bat les couilles ». Non mais voilà, et en fait le truc te donne un petit peu plus de défense quand tu as peu de vie. C'est indiqué tout en bas de la description, c'est effectivement okay. Ça ressemble à une carte magique où en bas te dit là. J'ai regardé, hein, j'avais pratiquement pas de vie, j'avais plus 1 de défense. Sur, je sais pas, le nombre c'est genre t'as 90 de défense, un truc comme ça, ou 90 de résistance. Le truc fait plus 1 quand t'es à 2 de vie.
Ça. Non mais c'est ça. Hier, c'est génial. Je me suis dit, pour passer ce putain de boss qui nous bloquait tous les deux, je me suis dit, ok, il y a un forgeron qui traîne, il me cause, ok, il a l'air sympa. J'ai besoin de certains matériaux pour repayer mon arme, soit. Épée plus 1, d'accord. Bah, au lieu de taper à 50, je tape à 51. Merci.
Et encore, parce que apparemment, de ce que j'ai lu, parce que moi aussi, au final, j'ai fini par craquer, aller lire une solution, ne serait-ce que pour savoir où est-ce qu'il faut aller ensuite.
Il y a un moment, c'est le bordel.
Il y a un moment où en fait, tu te retrouves dans un truc, tu vas dans un cimetière à droite, il y a des squelettes qui respawnent à l'infini, qui te one-shot. Tu vas à gauche, en fait, il y a des mecs chelous et tu te fais défoncer. Et en fait, toutes les directions où tu vas, tu te fais défoncer. Donc,
ça,
tu
on dis, se mais dit, va dans les profondeurs, ok, j'y vais. Non, pas ces profondeurs-là, en fait, les autres. Ah.
Ça aussi c'est énorme. Mais ça j'ai regardé une solution, je voyais pas comment y aller. C'est ouf hein.
Ouais.
De se dire putain mais et en plus le chemin il est pas du tout clair puisque tu récupères la clé des profondeurs sur un boss
qui est attention, c'est une clé, la clé de la cave que tu récupères sur le toit de l'église et la clé de la cave elle est au sommet du pont.
C'est ça, mais attends, là, moi, t'as pas vu aussi la seule clé du jeu
pourtant, c'est le premier endroit
complètement.
Ok, tu penses.
T'as pas vu la seule clé du jeu que t'es obligé d'acheter chez un marchand pour
si,
avancer
je l'ai vu, celle
extraordinaire.
Un pauvre marchand de merde qui est planqué derrière des caisses à la con qui normalement servent de décor.
Voilà, non mais c'est le genre de truc. Franchement, mais en toute honnêteté, sans Solus, sans un mec pour te driver et sans jeu en ligne, c'est-à-dire sans avoir des mecs pour backseat avec toi, les assists et tout ça. Comment tu fais pour finir ce jeu en moins de 3000 heures?
En l'ayant déjà fini une fois avant.
Bah ouais, mais tu peux... Enfin, c'est pas... Il y a quand même des... Je suis désolé, je trouve qu'il y a des gros problèmes de design là-dedans, quoi.
Bah moi, c'est l'impression que j'avais eu quand j'avais fait un petit essai sur PC il y a quelques années. Outre le fait que pour taper, c'est les gâchettes et pas les touches de façade, ce que je trouve absolument débile... C'est que vraiment...
Pas forcément parce que t'as main gauche, main droite, et tu peux changer toutes les touches. Donc
oui,
là-dessus...
Non, pas le bouton B.
Oui, pas le bouton B dans les menus.
Et tu parleras du bouton A, t'en parlais très bien.
Je parlerai du bouton A, oui. Non. Je t'en prie, Antix.
Et du coup, moi, c'était un petit... Alors, le début du jeu, t'as tes petits tutoriels dans la prison, ça va. Tu crèves un peu, mais tu commences à comprendre les concepts. Et en fait, c'est quand il débarque sur le... Quand tu bats le boss...
Sanctuaire,
hein. Et tu débarques au sanctuaire. Et là, bah, tu commences à explorer, mais... C'est le moment où, ouais, tu fais les trucs genre... Les humanités, j'étais, mais... Ça sert à quoi?
C'est ça.
J'ai jamais compris moi perso. Alors, après, je suis pas allé tellement loin.
Ça sert à redevenir humain.
Ça sert à quoi de redevenir humain? Alors redevenir humain, ça sert à se faire envahir par d'autres joueurs, ce qui est toujours très agréable, à pouvoir invoquer des fantômes et des assists en fait, c'est-à-dire des mecs qui vont buter le boss à ta place, parce qu'en gros c'est à peu près ce que ça fait.
Ouais, il l'aggro et puis toi t'as plus qu'à passer derrière et se taper comme un sale.
Et si tu es déjà humain, donc t'as déjà cramé une humanité, tu peux en cramer une deuxième pour faire briller ton feu de camp de 1000 feux, donc c'est pour déclencher le pouvoir feu d'artifice, pour gagner 10 fioles d'estus au lieu de 5 au feu de camp où tu l'as fait briller. Ça, personne te l'explique dans le jeu.
Non.
Mais ça rajoute un chiffre à côté de ta barre de vie, et ça, c'est cool.
Et alors, il me semble, j'ai lu quelque part, mais
oui,
je sais pas si c'est vrai,
voir ce que tu veux dire,
que quand tu as ton compteur d'humanité, plus il est élevé, plus tu tapes fort, ou quelque chose comme ça.
Ah non, plus tu drops d'objets, moi j'ai lu.
Ah, donc c'est peut-être un... Voilà, donc pourquoi?
Et ça, c'est intéressant, mais c'est con que le jeu t'explique pas, quoi. Parce que clairement...
Mais clairement, l'humanité, tu regardes la description de l'objet dans le jeu, c'est un petit esprit qui permet de faire je sais pas quoi, de regagner une humanité. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'humanité?
C'est du lore, mortel.
Mais va te niquer, c'est pas du lore. Mais moi aussi, si j'écris n'importe quoi...
Le lore, il a été écrit par des fans.
Mange le lore.
Mais je suis désolé, si tu écris n'importe quoi sur une feuille de papier, c'est pas pour ça que ça fait du lore. Moi je suis désolé, les pantoufles sacrificielles.
C'est pas assez ouvert d'esprit, c'est
les tout. Les pantoufles sacrificielles de Lautrec 1er, je t'écris du lore dessus sans problème, c'est pour ça qu'il sera bien.
C'est pas un petit bout de papier, c'est un item avec du lore
il y a tout autour et enveloppé de papier,
non, mais
de papier toilette.
J'ai rien compris. Mais déjà, bon, tu comprends que le jeu,
tu comprends que le jeu,
il est, oui, t'en veux quand, non, mais attends, quand tu sors du tuto et le premier boss. Non, déjà, le premier boss, tu le combats pas.
Non, il écrit fuyez par terre.
Tu fuis ton premier boss parce que t'as rien
désolé,
pour le péta. Et le jeu,
pas...
il fait.
Attendez, je suis désolé, je n'ai pas fui le premier boss, je l'ai battu.
Avec la poignée d'épée de merde.
Avec la poignée d'épée de merde, en lui envoyant un point de vie par un point de vie. Parce que je me suis retrouvé coincé dans un coin de décor où je pouvais pas sortir, mais il pouvait pas me toucher.
Ah!
Ah, donc oui. Grâce à un bug, je l'ai battu du premier coup et j'ai récupéré.
Mais c'est que ça, Dark Souls.
Mais j'ai récupéré la masse de je sais pas quoi que je ne pourrais équiper que quand je serai niveau 48 en force, c'est-à-dire dans 10 ans, mais de, voilà, dans le meilleur des cas. Donc c'est peut-être une arme très très bien, hein, mais je peux pas l'équiper. Tu drops une arme d'un boss que tu peux pas équiper.
Le truc qui m'a rendu fou là, le.
En plus de tout le reste. Hein.
Oui, non, mais le pont, donc t'as un dragon qui t'empêche de passer. Tu dis ok, très bien, ça avait l'air d'être tout droit.
C'est là où j'ai rage-quitte la deuxième fois.
Ça devait être tout droit, il y a un petit chemin à droite, j'y vais. Je lis ma petite solution sur internet. Ah, mais si vous vous démerdez bien, il y a une petite fenêtre de 3 pixels, machin, quand la queue qui se balance est vers vous, vous tirez une flèche dedans, vous faites ça 3 fois et vous droppez une arme qui pète le jeu tellement elle est forte.
Oui, c'est l'épée draconique.
Ouais, ok.
C'est ça.
Qui me le dit, quoi. Il y a même pas un pauvre dialogue de PNJ qui te donnerait un indice là-dessus. Quoi.
Mais attends, il y a pire que ça. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a fait pisser de rire, c'est il y a un moment, vous pouvez le regarder d'ailleurs sur Twitch, il est toujours en ligne, il sera en ligne sur YouTube si j'ai un tout petit peu de temps. Et peut-être sur PeerTube si je suis très très coquin. Je savais pas moi au départ, mais en fait, j'ai libéré un PNJ dans une maison. C'est-à-dire, il y a un mec qui était coincé dans une maison parce qu'il avait pas la clé. Alors, comment il a fait pour pas avoir la clé, je sais pas.
Le mec tout jaune, non?
Ouais, enfin, je sais rien.
T'essayes de chercher de la logique. De...
le lore.
J'arrive pas à m'enfermer tout seul, ok.
Non, mais attends, je suis désolé, tu passes devant des maisons, il y a des assassins qui sortent. Tu les tues, puis tu te rends compte qu'en fait, les assassins dans la maison, il y avait rien. Donc le gars, il était là, il était assis là, en fait. C'est pas du lore, ça, c'est du mauvais game design. Quand tu fais du lore. Mais attends, quand tu fais du lore, quand tu dis putain, mais attends, j'ai un lore trop profond, tu vas pas mettre des ennemis qui sont juste coincés dans des maisons où il y a même pas un chiotte. Il est
tu
où le lore, là? Si tu mets un rat, voilà, un rat, éventuellement,
comme,
ça aura du sens.
Ce qui rend fou notre ami Monique Duterte sur Twitter, au début de Resident Evil 7. Où, tu as pas d'électricité dans la maison. Quand t'arrives dans la maison, t'as un boîtier de fusibles où il manque un fusible. Et pourtant, la télé et le frigo marchent encore. Et,
ben voilà.
Et c'est ce genre de manque de logique qui, je pense, qui rend fou surtout les joueurs de Nintendo en fait.
Je sais pas si ça rend fou les joueurs de Nintendo, mais en tout cas, moi, ça m'a rendu fou. Bon, bref. Donc le
bouton A.
Alors le bouton A, c'est merveilleux. Alors ça je suis désolé, on a beau essayer de dire tout ce qu'on veut, c'est du mauvais game design. Je suis désolé de le dire, c'est ça. Dark Souls, si je résume un petit peu, le level design est assez
bon,
ouf.
Très bon, ouais.
Il est même très bon, il est même parfois très surprenant. C'est vrai que la première fois que tu prends l'ascenseur machin, que tu te rends compte que, ah putain, mais je reviens au sanctuaire, tu te dis putain, tout est interconnecté, c'est quand même bien ouf.
Ouais.
Même si il y a des fois où j'ai du mal à comprendre la logique quand t'es dans le jeu, c'est-à-dire faut vraiment aller parcourir le tout. Ah ouais, mais tiens, mais en fait, il y avait un chemin là. Ok. On est d'accord, le level design est ouf. Le monster design, si t'es pas habitué à de la Dark Fantasy, effectivement, ça peut paraître assez ouf. Pas de problème. Maintenant, il y a quand même un truc. En dehors du bouton B qui sert à valider dans les menus, c'est la version Switch. Ok.
Ah, mais c'est horrible quand tu veux mettre ta console en veille.
Je suis mort au moins une dizaine de fois à cause de ça.
Parce que t'étais bloqué dans le menu rapide.
Ouais.
Ouais, pareil.
Mais c'est. Mais vraiment. Hein.
Pourquoi ça tape pas? Ah, bien, je suis dans le menu.
Le pire truc, c'est pas ça. Le pire truc, c'est que pour faire une roulade, t'appuies sur le bouton A. Pour courir, tu maintiens le bouton A. Pour sauter, tu maintiens le bouton A, puis t'appuies sur le bouton A.
Ah !
Du coup.
Pour sauter, tu maintiens, puis t'appuies ?
Bah ouais. Oui. Donc tu maintiens, puis t'appuies, oui.
Y'a pas assez de boutons sur la manette.
Tu maintiens, puis t'appuies, y'a pas assez de boutons sur la manette. Pendant ce temps-là, le bouton pour changer de stance, c'est X. Ça pourrait être select, hein, je veux dire. Ça coûterait quoi ? Surtout que tu changes pas de stance souvent, tu pourrais cliquer sur le voilà. Alors tu peux changer la configuration de toutes les touches, mais le bouton A, ce qui sert à courir, sauter, esquiver.
Attends, il sert à autre chose. C'est en regardant des vidéos, je voyais des mecs descendre des échelles à fond la caisse.
Vitesse, ouais.
Je me dis mais comment ils font ? J'ai essayé, je me déplace, j'appuie sur tous les boutons, ça fait chi. Je cherche, j'ouvre un petit onglet sur mon navigateur, je regarde. Ah mais il suffit de, tu sais, le mec se fout de ta gueule, quoi. T'as qu'à get good. Il suffit de rester immobile et d'appuyer deux fois sur le bouton A. J'ai redshift voilà. mon navigateur.
C'est. Je pense que la seule chose qui manque, c'est deux appuis longs, non, trois appuis longs, trois appuis courts, trois appuis longs, pour que quelqu'un te sorte de ce jeu.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Sur le bouton A. Non, mais je suis des. Fuck.
Non, mais sois pas désolé, c'est pas ta faute si t'es nul.
Non, mais enfin, moi, je.
Mais je comprends. Hein,
la philosophie du guide. Non, mais après, honnêtement.
Je l'ai quitté deux fois le jeu, hein, au tuto.
Alors, non, voilà. Mais je comprends les gens qui sont arrivés à être aspirés par ce truc-là. Parce qu'effectivement.
Il y a un petit côté fascinant, quand même.
Quand tu sais à peu près où tu vas et que tu commences à maîtriser un peu près ce que tu fais et que tu arrives à battre tel boss, c'est. Alors c'est satisfaisant quand t'arrives à le faire tout seul, quand tu te fais driver par un fantôme parce qu'en réalité t'y arrives pas, c'est juste, t'es juste dégoûté. Mais si j'étais arrivé à battre la gargouille du clocher tout seul, honnêtement, ouais. ça aurait été ultra satisfaisant, je m'en rends bien compte. Parce que t'en as tellement chié que c'est ultra satisfaisant. Maintenant, c'est un petit peu comme si je disais, quand je suis méga constipé, le fait d'aller lâcher un énorme caca, c'est ultra satisfaisant. Non, ça reste un énorme caca. Il y a pas d'exploit derrière. Je veux dire,
d'accord.
Ça n'a rien d'intéressant.
Tu veux vraiment invoquer Méduse.
Oui, je sais, mais il vient pas. Visiblement, il vient pas. Donc voilà, j'ai vraiment du mal avec
pour
ça.
Moi, le jeu il la cartonne parce que t'as un truc qui s'appelle le syndrome de Stockholm.
Non, je suis désolé. Je pense que le jeu il est sympa à regarder. Quand tu regardes des gens jouer qui savent vraiment bien jouer. C'est vraiment prenant de les voir progresser et tout ça. Et je pense qu'en fait, le jeu est devenu une espèce de mème. Mmh. Et en réalité, je suis persuadé qu'il n'y aurait jamais eu de suite si... Enfin, tous les jeux de From Software jusqu'à Dark Souls, c'était... Enfin, les Kingsfield, tout le monde s'en bat les couilles. Quasiment tous les jeux de From Software, en fait, ça a été des bides absolus. Parce que... Enfin, voilà, il y a quand même énormément de défauts. Dark Souls, ça a explosé parce que c'est devenu une espèce de mème. Le Get Good, le You Die Dead... Enfin voilà, c'est devenu une espèce de... Et les gens ont vu effectivement des qualités qui sont réelles et que je ne nie absolument pas. De level design, de... effectivement, de monster design, de... comment tu progresses. Mais derrière, il y a tellement de défauts. C'est quand même incompréhensible que ce jeu-là ait pris des 19 sur 20 un peu partout.
Il n'a pas eu des si bonnes notes que ça. Mais... Enfin,
les suites plus peut-être, je sais pas.
Le 3 à la limite. Moins.
Bah, le 3 à la limite. Le 3 était plus accessible dans le sens où... Apparemment. Pardon.
You die!
Je reviens.
Tous les jours. Temps de chargement.
Mais putain.
Attends, non, temps de chargement, Galaxy, c'est pas encore fini.
D'accord.
Voilà. C'est chiant, hein. Du coup, pendant que c'est tout, j'en profite pour finir ce que je voulais dire. C'est que c'est un jeu qui est sorti en 2010, à une époque où le jeu vidéo, c'était du Gears of War, du Uncharted. Des jeux qui te prennent par la main, qui sont extrêmement scriptés. Qui te balance tout à la gueule sans vraiment de subtilité, et en fait Dark Souls est exactement à l'opposé de tout ça, en proposant une expérience qui était vraiment dure, très
à la Mega Man de l'époque, ouais, ouais.
Ça. Et qui avait, avec donc, les qualités dont on a parlé, aussi un univers qui changeait un petit peu de tous ces trucs qui semblaient copier-coller d'un film hollywoodien, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que le jeu a vraiment bien marché, en tout cas à son époque, qu'il est devenu, il est cette aura actuelle et qui, à mon avis, est un des jeux les plus populaires de la génération précédente, c'est qu'à une époque où tout le monde faisait d'une certaine façon, il allait faire exactement l'opposé, et ça a plu à toute une frange de joueurs qui étaient un peu en manque de sensations de ce côté-là, quoi.
Donc pour toi, c'est pas vraiment un mème, mais on va dire que c'est un produit de son époque. Ça a marché parce que c'est sorti à un moment où ça a surpris des gens.
En fait, pour moi, il est sorti au bon moment. Enfin, le fait qu'il soit sorti à ce moment-là, ça a aidé. Il serait sorti sur PlayStation 2, je pense que tout le monde l'aurait oublié.
Mais en fait, c'est parce que Demon's Souls, qui était le jeu qui l'a précédé de quelques mois, quelques années, a été un bide monstrueux dans mon souvenir.
Bah, pas tant que ça, parce que c'est un jeu qui avait un certain succès d'estime. Enfin, c'est pas un jeu qui a super bien marché, je suis d'accord.
Par rapport à Dark Souls, je parle vraiment de succès commercial, je parle pas de... Merci. Alors, le succès commercial de Dark Souls,
rouge, bien...
oui, c'est, le troisième, c'est le troisième boss de Dark Souls, hein, le cochon d'Inde. C'est, bah. Dans le lore, c'est en réalité c'était le cochon d'Inde du fils de la reine des damnés. mais putain, voilà, va aller baiser vos mères. Allez baiser vos mères.
Ok, mais bon, c'est un peu violent dit comme ça.
Voilà.
Perso, j'habite pas dans le nord, perso.
Non, oui, enfin, je pense que Dark Souls 2 et surtout 3 ont plu parce qu'ils étaient plus accessibles et mine de rien, le système de combat plaît à pas mal de gens et je veux dire, honnêtement,
attends, il a quoi de plaisant le système de combat que...
Alors, attends, il y a des gens qui aiment Monster Hunter.
Non, mais honnêtement, j'aime bien le système de combat dans ce côté. C'est pas.
Archaïque.
Il est lourd, mais pas. Je dirais pas que c'est le fait qu'il soit lourd qui plaît. Mais peut-être l'aspect anticipation et t'as pas le droit à l'erreur en fait. Dans le sens où tu fais faut être constamment focus parce que tu fais une erreur, tu te prends une bastos qui t'enlève toute ta vie.
Mais attends, on est d'accord que le système de combat pour les mobs standards, c'est genre le mob avance, tu recules, quand il tape, tu avances, tu le tapes, et ensuite tu recules. On est d'accord que c'est ça. Hein. Et pour les boss, c'est je tourne dans le sens horaire ou anti-horaire autour d'eux en leur tapant dessus. Parce que c'est non, à peu près ça le système de combat. Sans être méchant.
Oui, mais oui, certes, si tu joues comme ça, d'accord. Mais,
mais je joue comme ça, c'est la seule manière de gagner. Alors, je suis désolé, au bout d'un moment, je joue. C'est les jeux qui te forcent à jouer d'une certaine manière en disant tu devrais jouer infiltration, ce serait vachement plus stylé. Bah ouais, mais quand je joue comme un gros bourrin, ça va vachement plus vite, bande de cons. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, bah je bourre comme un sac, c'est tout. À un moment, je sais pas, je suis un capitaliste, moi les gars, il y a un moment où je réfléchis en termes de rentabilité. J'avais un exemple
productif jusque dans ses veines. Genre,
mais attends, mais j'avais un exemple comme ça assez parlant. J'ai un de mes anciens collègues avec qui jouait à Gears of War. Je me rappelle, je l'ai vu jouer à Gears of War. Et à un moment, dans le tuto du premier Gears of War ou du deuxième, enfin je sais plus exactement quel jeu, le truc disait prends le sniper et bute ces deux mecs. Et mon collègue, il y va au couteau. Et je me dis, mais qu'est-ce qui branle ce con? Et il me dit, mais en fait, ça va 10 fois plus vite que d'aller viser avec ce putain de sniper, je vais pas aller me faire chier à ça. Et en fait, ça marche, puisque globalement, une fois que t'as battu les deux mobs, en fait, bah, que tu les aies snipés ou pas, le jeu s'en bat les couilles, il ouvre la porte suivante. Donc je suis désolé, quand tu as un combo qui marche bien dans un jeu, ça sert à quoi d'aller en apprendre un deuxième s'il est pas plus efficace? Alors, c'est peut-être plus stylé, très bien, mais enfin, qui c'est qui se préoccupe du style, sauf si ça rapporte quelque chose dans le score ou quelque chose comme ça. Donc,
je joue sur Twitch.
Non mais.
Le score, ça fait vieux quand même. Hein.
Le score, ça fait un. Voilà. Donc voilà, mon score à Dark Souls aujourd'hui, c'est 2 humanités, quoi. C'est, au bout d'un moment, c'est. Mais c'est pénible, j'ai récupéré une humanité jumelle. Je sais même pas à quoi ça sert.
Ça t'en met deux.
Super. Alors,
je l'ai cramé, je suis mort, je les ai perdus.
Cool.
Voilà.
Et ça, à la limite, ça, le fait que le jeu soit punitif, non, par exemple, je trouve pas que ce soit un défaut.
Non,
ce
clairement, qui, on est d'accord.
Là-dessus, c'est. Je trouve pas ça gênant. Le fait qu'il n'y ait pas un feu de camp devant chaque boss, on va dire très proche de chaque boss, je trouve ça complètement con. C'est juste, voilà, dans un Metroid, avant chaque boss, t'as une salle de sauvegarde. Parfois, elle est un peu planquée, mais t'as toujours une salle de sauvegarde en endroit. Ça n'empêche pas que tu peux très bien faire stresser le joueur en éloignant un peu les salles de sauvegarde ou en mettant un événement scripté non attendu et qui peut avoir du sens. C'est le principe de voilà, c'est moi honnêtement le fait d'avoir joué à Dark Souls là maintenant vraiment sérieusement, c'est-à-dire de pas juste avoir essayé la démo pendant 2 heures.
C'était très con la démo d'ailleurs.
Non, même je parle même de la démo de Dark Souls 3 que j'avais joué avant.
D'accord.
Ça m'a donné envie d'une chose, moi, c'est de jouer à Bloodborne. Parce que
Je
trouve que l'univers est beaucoup plus cohérent, parce que là le truc de Dark Fantasy avec leur truc complètement craqué en fait. Je sais pas, dans Dark Souls 2, elle se passe où l'action, elle se passe dans le même pays? C'est un pays? Ou c'est une contrée? Ou c'est...
C'est un rêve.
Bah justement, je trouve que le fait que dans Bloodborne, les mecs assument que ce soit un rêve, duquel tu peux pas te réveiller, une espèce de cauchemar permanent, c'est très Lovecraftien, et je trouve que ça colle très bien avec le design et la façon dont l'univers est articulé, en fait. Donc je pense qu'il y a des trucs de bullshit lore aussi dans Bloodborne, hein. Je connais pas.
Putain,
le jeu.
J'ai dit ça au pif et je suis tombé bon, quoi.
Et ça, mais le fait de dire l'univers du cauchemar dans lequel tu dois aller chasser tes propres peurs et tout ça, là tu peux faire des level design complètement délirants. T'as l'Angleterre victorienne qui est toujours un truc, alors t'as Jack l'Éventreur, t'as toute cette mythologie-là qui vient se mélanger, qui est relue par des Japonais, donc c'est un peu n'importe quoi. Ça m'a donné vraiment envie de jouer à ce jeu-là, surtout que le système de combat a l'air beaucoup plus dynamique, le perso a l'air plus rapide. J'ai vraiment l'impression que le truc a été bossé pour que ce soit plus agréable là-dessus.
Ah oui, non, parce qu'on n'a pas assez insisté, mais dans Dark Souls, en comparaison, Conan le Barbare, c'est Usain Bolt. Hein.
Oh putain, c'est clair. Alors après, t'as joué guerrier, toi, c'est ça?
J'ai joué, je crois qu'ils appellent ça guerrier.
Guerrier de l'espace?
Non, guerrier tout court, malheureusement, ça aurait été guerrier de l'espace.
Alors, pareil, en lisant une Solus, les mecs disent, commencer par Pyro, c'est plus simple.
Putain, mais...
Ok.
Merde.
Mais pourquoi
merde? Merde.
Ça, et le pire, c'est quand ils te disent dans l'espèce de don que tu dois choisir au début, moi j'ai pris les potions gratos. Je me suis dit, a priori, le jeu est difficile, ça va me servir. Toutes les solutions se disent non, non, mais prenez la clé, vous verrez. Putain, effectivement, oui, j'aurais dû prendre la clé.
La clé ou l'espèce de passe-partout? Alors, moi, au départ, j'avais pris. Alors, apparemment, il y a deux trucs un peu putes. Il y a une bague qui est censée te redonner lentement des points de vie. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas ça qu'elle fait. Personne ne sait si. Attends, il y a un truc où il y a écrit cette bague vous régénère vos points de vie. Il y a écrit régénère vos points de vie. Lentement. Il y a écrit régénère lentement vos points de vie.
Très lentement. Un tous les deux ans.
Non. Cette bague ne régénère pas les points de vie. Cette bague augmente tes points de vie de genre t'en as 30 ou 40 de plus.
C'est quoi? C'est la trad qui a fait de la merde ou...
Alors. Oui. Il y a deux écoles qui se battent, les développeurs n'ont jamais statué sur le sujet. Il y a des gens qui disent la trad c'est de la merde, et il y a des gens qui disent non, mais le jeu est volontairement déceptif. J'ai pas de terme en français, enfin.
Non, mais non.
Et volontairement trompeur.
c'est possible. Non, mais.
Non.
Mais je veux. Enfin, allez vous niquer. C'est quoi l'intérêt? Parce qu'à la limite, qu'il y ait des PNJ qui te mentent, ça peut faire partie éventuellement du lore et de l'atmosphère du jeu
J'en
et tout ça, et ça pourrait avoir du sens. J'en ai eu aucun, moi. Et
j'en ai eu un, en fait, il a une marque au pied, ils te disent ne le libérez pas, c'est un menteur. Bon, je l'ai libéré, je verrai bien.
Alors, moi, ce qui se passe, c'est que j'en ai libéré un qui m'a filé des thunes, ça c'était cool. Et j'en ai libéré un autre, et après, j'ai été lire une soluce qui m'a dit ah, ça c'est celui qu'il faut libérer si tu joues magicien ou magie ou je sais pas quoi, parce qu'il donne vraiment des objets cool. Du coup, je l'ai tué. Parce que je me suis dit, je joue pas magicien, je joue guerrier, j'en ai rien à faire.
Moi, je veux pas le libérer pour rien.
Super, je l'ai libéré, je l'ai tué. Attends, j'ai récupéré des super objets en le tuant, donc je fais une bonne affaire. Ah. Et du coup, derrière, je me suis dit, putain, bon, on peut tuer tous les PNJ, donc j'ai été tuer les autres. Mais je me suis dit, je vais aller tous les buter, qui se sont mis à foutre. Et en fait, il y en a un, je l'ai buté, mais il avait deux potes que j'avais pas vu dans le coin de la pièce. Et du coup, je suis baisé maintenant quand je démarre ma sauvegarde, je me fais défoncer le cul.
Est-ce que tu veux savoir pourquoi sur Xbox 360? Parce qu'en fait, tu viens de m'avoir me faire faire un flashback.
Flashback.
En fait, je l'ai abandonné deux fois Dark Souls.
Une fois sur PC, fois sur 360.
Et une fois dans l'autoroute.
Non, deux fois sur PC.
vilain Dark Souls, le mec, c'est sur l'air d'autoroute.
Le mec, il fait une heure de route juste pour déposer Dark Souls sur le bord de la route. Non mais, en fait, je l'ai abandonné deux fois sur PC parce que juste ça m'a saoulé. Et je l'ai abandonné une fois sur Xbox parce que je pouvais pas continuer. J'avais tapé le PNJ. Attends. Tu vois, quand tu sors de la prison,
oui.
t'as une sorte de.
T'as le sanctuaire de l'Ichfeu.
T'as une petite plateforme en rond avec un PNJ, avec un feu, et t'as un escalier.
Oui
c'est le truc de l'Ichfeu.
Il y a un moine là, c'est ça?
Bah, j'ai tapé ce mec sans faire gaffe. impossible de choper une sauvegarde juste avant parce que j'avais la flemme de me retaper tout le tuto où je me suis fait niquer 300 fois par le boss. Et voilà. Et ça, par contre, c'est complètement con. Je suis désolé. Ça fait gros un jeu qui est vraiment nul, mais faut arrêter, genre. Le PNJ, il t'a tué une fois.
Mais après, il est vénère.
Il s'en rappelle plus. Enfin, je veux dire, dans la logique du jeu, il t'a tué une fois, t'es plus le même, ou en tout cas, tu reviens avant que tu l'aies tapé.
Je sais pas, en fait, parce que tu reviens, les ennemis ressuscitent, tu ressuscites, mais en fait, le jeu triche même parce qu'il y a des ennemis qui ressuscitent jamais. Donc en fait, le jeu trahit sa propre logique de temps en temps parce que les gros mobs, en fait, ils ressuscitent jamais, sinon ce serait vraiment trop dur. Je suis désolé, mais quand je vois des trucs comme ça, moi, ça me fout les couilles à l'envers. Hein.
Ah.
T'es humain, d'accord. Attends, non, mais t'es la gargouille, parce que ça c'est un bon exemple.
Oui.
Tu débloques l'ascenseur dans la paroisse.
Oui.
Moi, quand j'ai débloqué l'ascenseur, vraiment j'étais surpris. J'ai dit, putain, c'est vraiment cool. Je retourne au début du jeu, ça veut dire que le jeu est ultra imbriqué et tout ça. Et effectivement, apparemment en termes de level design, les premières heures de jeu c'est assez fou. Et après ça devient un peu plus linéaire, ce que je peux comprendre. C'est pas facile de maintenir un niveau de qualité, j'hésite pas à le dire, de ce type là sur tout le jeu. Vraiment, tu sens que tu vas dans la vallée des Drake, t'arrives à Blight Town, machin, puis tu vas dans je sais pas quoi. Tu te rends compte que tout est interconnecté, c'est ouf. Même si des fois, c'est interconnecté avec des logiques un peu bizarres. C'est-à-dire, je suis certain que la carte, elle doit être un peu déformée dans la réalité.
Soit, ça reste.
Parce que je sais que Metroid Prime, il y a des pièces qui se chevauchent sur certaines pièces de Metroid Prime se chevauchent un peu si tu modélisais vraiment toute la carte.
Ok.
Et t'as quand même des très longs ascenseurs qui trichent un petit peu, puisque du coup, bah, t'as une énorme profondeur. Bref, bon. Soit. Donc ok, tu débloques ça. Donc tu retournes au feu de camp. Tu machin. Tu te dis, très bien, je vais redevenir humain ou je sais pas quoi, bidule. Je remonte l'ascenseur. Déjà, fallait prendre un escalier que moi j'avais pas du tout vu. Il était coincé dans un coin. Je prends l'escalier. Je tue le chevalier squelette qui est à cet endroit-là. Ensuite, il y a plein de zombies. Je me fais tuer une première fois parce que je vais dans la pièce comme un bourrin et que ça marche pas. Je meurs, donc je reprends l'ascenseur.
Tu n'es plus humain.
Je ne suis plus humain. 30 secondes d'ascenseur. Je rebats le mec dans l'escalier. Les zombies, ce coup-ci, je les attire un par un. En faisant, tu avances, tu recules. Comment veux-tu que ça se passe bien? Bon. Donc, on est dans du gameplay très intéressant. On est dans de la boucle de gameplay qui est quand même extrêmement intéressante. Vous en rendez bien compte, c'est pas du tout lourd. Donc, je tue les zombies. Qui me tape dessus quand même parce que le jeu est très mal foutu. Bon, bref. Et là, il y a un magicien. Le magicien, il me one-shot. Donc, je recommence tout. Donc, ascenseur, escalier, squelette chevalier, les zombies un par un. Je me fais un petit peu tataner par le machin. J'arrive à tuer le magicien. Très bien, je vais au boss. Le boss m'éclate. Normal, c'est la première fois que je le croisais. Je meurs. Je retourne au feu de camp. Je reprends l'ascenseur. Je reprends l'escalier. Je bute le chevalier. Je bute les zombies. Et là, je vois qu'il n'y a plus le magicien.
Ouais.
Et je me dis, mais pourquoi il n'y a plus le magicien? C'est pas logique. Tous les autres ennemis ressuscitent, sauf le magicien. Donc ils servent à quoi les autres ennemis? Surtout que techniquement, faire tout ce bordel-là, c'est-à-dire tuer une dizaine de zombies, plus le chevalier, machin, ça doit rapporter quoi? 600 âmes, une connerie comme ça?
Ouais, ouais.
Donc ça sert même à rien, c'est-à-dire quand j'arrive au boss, je peux aller ramasser mes âmes, donc les 600, puisque je suis mort plein de fois, je meurs, le prochain coup j'en ramène 1200, puis 1800, machin, mais tant que j'ai pas battu le boss, de toute façon je peux pas les utiliser, je suis obligé de les ramasser. Ils servent à quoi ces mobs-là?
À faire chier.
Eh bien mon petit mortel, c'est très simple. Vois-tu, dans Dark Souls, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'emmerdement. Et plus tes ennemis ressuscitent, plus tu es emmerdé. C'est une courbe exponentielle.
Écoutez,
sauf que tu arrêtes le jeu.
Moi, je pense que c'est à cause de Ludovic III, qui était le fils du roi des Danais, qui a vendu son âme au crocodile mystique contre des carambars il y a de nombreuses années, et que c'est lui qui fait que tout le monde ensuite. Zelda arrive à le justifier en disant la lune de sang, machin, parce qu'effectivement, si tu vidais toute la carte, ce serait relou.
Bah, c'était plutôt malin d'ailleurs dans Zelda, parce que les ennemis devenaient plus forts souvent.
C'était plutôt très 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 malin. Dark Souls, je trouve, enfin le fait de dire tu meurs, tu ressuscites, donc tous les ennemis ressuscitent avec toi, je trouve ça con. C'est bête, mais je trouve ça con. Surtout qu'ils ne ressuscitent pas tous, donc du coup, le jeu trahit ses propres principes. C'est... Le fait, il devrait y avoir des objets, même en quantité limitée, qui te permettent de faire un feu de camp temporaire à un endroit. Ce serait moins con, effectivement. Ou je sais pas, il y aurait plein d'astuces qui permettraient de se dire on fait un truc un tout petit peu moins tarte. Et il me semble que dans Bloodborne, t'as assez systématiquement un feu de, enfin l'équivalent d'un feu de camp qui est pas très loin, un checkpoint qui est pas très très loin des boss en général. Tu te retapes pas la moitié de la map pour ça, avec un ascenseur très long qui est pas intéressant, avec des mobs qui sont pas intéressants parce que ça fait 15 fois que tu te les tapes. Et en fait, tu finis par te déconcentrer et par te faire taper par ces mobs de merde qui sont des zombies à la con. Simplement parce que tout d'un coup, il y en a un qui se met à gogoliser et à donner 35 coups d'épée alors que d'habitude, il fait avant-arrière en donnant un coup d'épée. Qui un jour s'est dit c'est du bon game design? Ou alors il faudrait que les ennemis, ou alors, je sais pas, un système comme dans Xenoblade 2 où les ennemis, quand ils sont très largement inférieurs à toi, ce qui pourrait arriver, ils finissent par se barrer ou par t'ignorer. Là, ça aurait une certaine logique que tu te retapes pas absolument tout. Voilà, bon. Donc, on a bien ragé sur Dark Souls, du coup, on ne fera pas le dernier sujet de l'émission parce qu'il est beaucoup trop tard.
Ok.
Nous reporterons ça à dans deux semaines. Je sais pas si, Mecton, t'avais envie de rajouter un mot de la fin pour Dark Souls. Moi, j'ai envie de dire tourte à la bouse.
Moi, je dis merde. Pas mal.
Voilà. Donc nous, on va se retrouver dans deux semaines. Je suis désolé d'avoir ragé sur Dark Souls. Je suis sûr qu'on va avoir plein de commentaires. Mais non, mais Dark Souls, c'est trop bien, c'est le jeu de l'année.
Syndrome de Stockholm. On va se faire sur Twitter.
Ouais, cool. Non, mais peut-être. Mais c'est syndrome de Stockholm, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont été attirés. Je suis désolé, c'est un produit
après, voilà,
de son époque.
Je te dis, c'est un peut-être que je me fais l'avocat du diable, mais j'ai quand même envie de continuer parce que le level design me pousse à me dire, il faut que je vois ce qu'il y a après.
Je vais te le dire, après il y a une zone qui pue dans laquelle les ennemis dropent des tourtes à la bouse, il y a des insectes qui n'ont pas de sens, il y a des trucs qui te maudissent, il y a des espèces de machins chevelus dégueulasses qui n'ont aucun intérêt, il y a des chevaliers qui ralentissent le temps, on sait pas pourquoi, alors on sait pas s'ils ralentissent le temps ou le framerate d'ailleurs. et après tu ramasses des pantoufles sacrificielles, des robes de chambre de l'enfer. Il y a probablement des selles de bain maudits, C'est ce que je pense que
celle de bain maudit, quoi.
Attends, je suis désolé, t'as vu la gueule des objets.
Génial, ça, comme idée.
Les selles de bain maudit, je pense que c'est une bonne idée.
C'est concept, hein, c'est concept, ça peut fonctionner. Hein.
Mais je pense
qu'on va pitcher ça à la Startup Nation.
Mais je pense qu'on peut pitcher ça à From Software. Un jeu qui se passerait intégralement dans ta salle de bain. Et où à chaque fois que tu sors de la baignoire, tu glisses sur le savon, tu meurs et tu recommences dans la baignoire.
Wasted.
C'était un truc à faire. Bref, allez, on se retrouve dans deux semaines, si tout va bien, dans une semaine en podcast. Alors je vous rappelle, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez nous écouter en direct, nintendojo.fr/dojobar ou twitch.tv/nintendojo.fr.
Et profiter du Techat.
Et profiter du Techat sur Twitch, en tout cas.
On raconte plein de conneries.
Si que vous nous écoutiez en direct ou en podcast, vous pouvez réagir directement sur le chat Twitch, #dojobar sur Twitter ou sur Mastodon, ou par mail, bar@nintendojo.fr. On vous promet qu'on répond à tout. En attendant, eh bien, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, ne jouez pas à Dark Souls. Mettez des commentaires.
Ouais, ou alternez avec un truc mieux.
Ouais, alternez avec un truc. Alternez avec Kirby. Et restez sur Kirby, du coup. Voilà.
Donc, Kirby Star Allies, le Dark Soul du Kirby. Hein,
sûrement. La Dark Soulisation, maintenant, je comprends, ça veut dire contrôler son personnage comme une enclume. Désolé. Voilà, laissez des commentaires haineux sous les vidéos de Julien Chiez. Oui. Et. des conseils inutiles que tu donnes. Voilà, et à la semaine prochaine. Mangez des pommes. N'oubliez pas que Julien Chiez était un très bon journaliste avant de funestes événements. Est-ce que j'ai baisé le game ou pas?
Macron dans les cordes.
Ça partir en côte sur le site.
Bref, allez, bonne nuit tout le monde, bisous.
Bye bye,
bisous. Bisous, à dans deux semaines.